Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 58e numéro des spéciaux de Comic City. Nous sommes le vendredi 1er mai 2020 et au programme de ce soir, nous allons nous intéresser au début de l'univers Ultimate. Et avec moi pour ce retour dans le passé, on se croirait dans un Comic City of the Future Past, Sam.
Oui, bah écoute, on a parlé justement quand on a commencé à penser à préparer cette émission, en se disant mais est-ce que ça va pas rentrer en collision avec le Comic City of the Future Past dans quelques mois? Parce qu'en fait, l'univers Ultimate a démarré en septembre 2000. Donc on va y arriver, Next You of the Future Past, si aucun de nous ne meurt d'ici là en tout cas.
Et, c'est pour moi ça que tu dis ça. C'est pour moi que tu dis
oui,
ça.
Oui, et pour moi aussi, parce que je commence à être légèrement usé.
Et oui, donc le début de l'univers Ultimate, bon, que l'on va traiter beaucoup plus en détail que ce qu'on aura l'occasion de faire dans Comic City of the Future Past, évidemment.
C'est pour ça qu'on fait un peu un spécial pour avoir le temps et l'espace pour le traiter.
Et puis bien sûr, bah, quand on arrivera à ce moment-là, on vous renverra bien évidemment vers ce spécial. On va parler un petit peu de ce qui a mené à cette création, de comment les débuts se sont effectués, ce qu'on en a pensé aussi, parce que c'est important, on l'a un peu vécu finalement, on l'a vécu vraiment dans notre vie de fan. L'arrivée de cet univers, et on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'on en a pensé déjà à l'époque, et ce qu'on en pense également maintenant. Est-ce que ça tient toujours le test du temps 20 ans après? Commençons par le commencement, en fait. Pourquoi la ligne Ultimate?
De mémoire, si je m'en souviens bien, c'était une idée de Bill Gemas à l'époque, qui était président, le nouveau président de Marvel, qui, quand il a en fait pris ses fonctions, s'est lancé dans les bouquins et dans leur histoire, et s'est rendu compte d'un truc, et je m'en souviendrai toujours de cette phrase, même 20 ans plus tard, quand j'ai commencé à lire les titres X-Men, je n'ai rien compris, et je sors de Harvard. Parce qu'effectivement, on était arrivé à un tel niveau de complexité à la fin des années 90, que fallait avoir un doctorat en continuité pour arriver à comprendre. Donc son idée était relativement simple, c'était les concepts marchent, les personnages marchent, ce qui ne fonctionne plus et rend difficile l'accès aux bouquins, c'est les références constantes à une continuité alors vieille de 40 ans. Voilà. Surtout que c'était devenu extrêmement compliqué, avec des constants retours en arrière, des flashbacks, des trucs. C'était une tendance très forte à la fin des années 90 d'être très très complexe, et voire faussement complexe par moment, juste pour faire genre. Et lui vient l'idée, mais qu'est-ce qui se passerait si on lançait une petite série de bouquins, une ligne resserrée autour de nos principales franchises? Et on prend l'idée de base, qu'est-ce qui se passerait si on les faisait commencer aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait si ces personnages apparaissaient au temps présent?
Faut dire que les précédentes itérations de tentatives de relance totale d'un univers... que ce soit chez DC, hein, parce que on a vu le cas chez DC avec Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earth, pardon, avec également Zero Hour, hein, milieu des années 90. Mm-hmm. Marvel avait essayé lui aussi avec sa gamme Heroes Reborn, ça n'avait pas forcément marché, quoi.
Oui, donc c'est une bonne citation de Grey d'ailleurs, qui cite Heroes Reborn en passant, qui avait tenu quelques mois avant de s'effondrer, mais c'était plus dû, on va dire, à des facteurs extérieurs, voilà. Surtout les auteurs impliqués. Là, Ultimate se différencie parce que c'est une initiative lancée en interne avec des auteurs maison, voilà, pour les dessins, et de nouveaux auteurs au niveau scénario qui vont apporter justement le ton frais qu'on attend de ces bouquins.
Donc, vu qu'on ne peut pas relancer l'univers entier, créons un nouvel univers finalement. Créons la Terre 2 de l'univers Marvel, quoi.
Voilà, créant un micro-univers où on pourra faire ce qu'on veut avec ses personnages, parce que c'est dans sa propre continuité. Voilà. Et tous les trucs qu'on ne peut pas faire dans l'univers Marvel principal, ou qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire dans l'univers principal à ce moment-là, on va pouvoir le faire dans ce micro-univers qui sera lancé à ce moment-là et qui, en fait, répondra à un certain nombre de vieilles aspirations, je pense, qui titillaient pas mal d'auteurs à l'époque et qui continuent à titiller d'ailleurs aujourd'hui.
La différence avec tout ce qui se faisait avant, enfin en tout cas à l'époque, c'est que pour lancer ce sous-univers, on n'a pas fait de Crisis, on n'a pas fait d'Event, on n'a pas fait de crossover. Ça a débarqué comme ça du jour au lendemain.
Voilà, une bonne petite campagne promo avant. Et je dirais, ce qui a fait le succès en fait relativement rapidement du bouquin, parce que si on regarde les premiers chiffres de vente, ce ne sont pas extraordinaires, notamment sur Ultimate Spider-Man, ça va être le bouche à oreille. Ça va être sur cette première année qui va être véritablement clé. Le fait que les gens vont se dire, mais c'est vachement bien, en fait. Voilà. C'est bien écrit, c'est frais. Ça nous rappelle, en fait, pourquoi on aime ces personnages et on va en parler plus avant quand on abordera les différents titres. Il y a vraiment cette idée de fraîcheur dans le bouquin. Et quand moi j'ai lu le premier épisode de Ultimate Spider-Man, c'est exactement le sentiment que j'ai eu. J'avais eu ce sentiment de rentrer, de retrouver un personnage que j'adorais, mais dépouillé de tous les trucs qui le rendaient chiant dans l'univers principal.
Ah, dépouillé aussi de pas mal de trucs qui le rendaient bien dans l'univers principal aussi.
Bah, c'est-à-dire que je pense que Bendis est revenu véritablement aux bases de Peter Parker et de ce qu'il faisait fonctionner à la base. Voilà. Qu'est-ce qui faisait fonctionner la série à la base? Et il est reparti là-dessus. Et bah, ça renvoie en fait à mon point principal, que je voulais aborder. Pourquoi, en fait, à ce moment-là, au début des années 2000, ça a pu fonctionner? Pourquoi à ce moment? Parce que tu l'as dit très bien, on a eu des tentatives précédentes. On a eu Heroes Reborn, on peut dire que l'univers 2099, c'était aussi ça. C'était l'idée de reprendre certains personnages et de les relancer dans un autre univers et de les reprendre à zéro. Il y avait déjà cette tentation et ce désir. Alors, pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché aussi longtemps? Mais pourquoi... À ce moment-là, ça a fonctionné. Je pense que ça a fonctionné parce que les séries principales de l'univers principal étaient alors à bout de souffle. On avait une série Spider-Man qui n'arrivait pas à se remettre de la saga du clone depuis plusieurs années. Moi, je me souviens de cette ère, surtout à partir John Byrne, Ward McKee, qui était mauvaise. Voilà, qui était juste mauvaise, qui essayait de revenir à une formule qui avait été utilisé pendant des années sur Spider-Man et qui à ce moment-là ne fonctionnait plus, voilà, qui était terminé pour une bonne partie du lectorat et qui tournait en rond. Les titres X-Men étaient créativement au fond du trou et les titres Avengers, alors à ce moment-là c'était Kurt Busiek et George Perez, mais ça s'appuyait avant tout sur du old school en fait. C'était du Avengers old school. Alors ça plus beaucoup de lecteurs. Je sais que toi, Steve, c'est une période que tu avais beaucoup aimé des Avengers. Moi, beaucoup moins. Mais le fait est que ça parlait à beaucoup de lecteurs. Et là, ça a fonctionné parce que justement, on avait un épuisement créatif de l'univers principal et que l'univers Ultimate, écrit par des jeunes auteurs qui arrivaient, même si Mark Millar avait un peu plus d'expérience que Bendis à ce moment-là, qui avait 2-3 ans d'expérience, alors que Millar, c'était un nom qu'on connaissait depuis 94-95, voire même un peu avant, il y avait une prise en main extrêmement novatrice dans l'ensemble, tout en respectant, je dirais, les principes de base, notamment sur Spider-Man, qui pour moi est la série la plus respectueuse de l'ensemble.
On a, bah justement, hein, comme tu disais, Brian Michael Bendis qui va débarquer, qui va lancer la gamme avec le Ultimate Spider-Man. Mm-hmm. Qui donc débutera en 2000, qui sera, malgré tout, bah, l'emblème de toute la gamme Ultimate, et ce jusqu'à sa fin, puisque ça en est la série la plus longue.
Mm. Puisque la série avec Peter Parker en tant que tel, c'est-à-dire en tant que premier Spider-Man, va durer 160 épisodes. J'exclus les mini-séries annexes. Et ensuite, ça sera Miles Morales qui reste, on parlera à la fin de l'émission, qui restera le grand apport pérenne de cet univers. C'est intéressant, comme je dis, c'est intéressant de voir comment la série Ultimate Spider-Man s'est construite. Parce qu'il n'y avait pas d'engouement particulier au départ. pour la ligne Ultimate. On savait pas trop en fait comment l'apprendre ce truc. C'était ouais, c'est quoi? Est-ce que ça va respecter la continuité? Est-ce que c'est sa propre continuité? Si c'est pas dans la continuité Marvel principale, pourquoi on s'y intéresserait? C'était vraiment, enfin, il y avait beaucoup de questions. Et le premier épisode, pour moi, tout s'est joué avec le premier épisode. Tout a trouvé réponse dans ce premier épisode. Ce que les auteurs voulaient faire, ce que Bendis voulait faire, ce que Gemas et Quesada derrière voulaient faire, c'était on ne casse pas les jouets, les concepts fonctionnent, les personnages fonctionnent, on les ramène aux bases et à ce qui les fait fonctionner. Et on essaye d'avoir une approche un peu plus, d'apporter un souffle d'air frais dans un univers qui se cherche à ce moment-là.
Tu as mis exactement le doigt sur le point qui fait que moi, je n'ai pas accroché à l'univers Ultimate au départ. C'est sympa, c'est frais, mais ça sert à quoi? C'est-à-dire que j'achetais déjà 12 000 séries. Pourquoi en acheter deux de plus qui n'ont aucun rapport? Tu vois, et j'ai été chaudé, moi, par Heroes Reborn. C'est-à-dire que 12 numéros, pour en faire quoi? Bah, pour les faire revenir dans l'univers?
Complètement. Voilà. Et je te dis, c'est pour ça que pour moi, le premier épisode, déjà, ça a été un coup de cœur. Total et absolu. C'est d'ailleurs pour ça que la carrière de Bendis ensuite a explosé. Ça reste pour moi l'un des meilleurs trucs que Bendis a écrit. D'ailleurs, cette première année, c'était, je l'ai relu cet après-midi, ça fonctionne toujours aussi bien. J'étais remporté dans le truc sans aucun problème. J'étais à un moment vraiment avec Spider-Man, c'est le personnage qui m'a fait commencer. Hein. C'est qui m'a fait vraiment commencer, rentrer dans l'univers des comics. D'ailleurs, je crois que c'est assez commun à beaucoup de lecteurs de commencer avec Spider-Man et que ce soit leur porte d'entrée dans l'univers des comics en général. Et j'étais à un point sur les séries Spider-Man où j'étais à un cheveu d'arrêter, moi. Mais vraiment. Voilà. J'avais supporté la saga du clone. Je trouvais des éléments qui m'intéressaient dedans. Voilà. On avait déjà cette idée de repartir à zéro avec Ben et voilà. J'avais bien aimé la reprise ensuite post-saga du clone, les premiers mois qui étaient intéressants. Mais créativement, c'était absolument et totalement inintéressant. Vraiment cette période 1999-2000, avant l'arrivée de JMS, je déteste cette période. C'est vraiment une période qui m'a fait détester en fait cette partie de l'univers. Et tout d'un coup, ce premier épisode d'Ultimate Spider-Man, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai relu. Parce que ça a été un coup de cœur immédiat et total. Ça m'a rappelé pourquoi j'aimais Peter Parker à la base, pourquoi j'aimais Spider-Man. Et pendant des mois et des mois, et pendant très longtemps, j'attendais le nouvel épisode de Ultimate Spider-Man, mais avec une impatience, parce que dès le départ, il y avait une tension. J'étais investi, en fait, dans le personnage à nouveau. C'était ce que je n'avais plus avec le Spider-Man de l'univers normal.
Nico qui résume bien ce que je pensais en fait hein, à l'époque de l'univers Ultimate. Ultimate c'était bien pour donner un pote qui voulait se lancer, tout en flippant que ça devienne l'univers principal.
Ah, personnellement j'ai jamais eu cette crainte. Voilà. D'ailleurs c'est assez vite dissipé à partir du moment où l'univers Marvel principal a lui aussi commencé à se remettre. Quand on a eu JMS sur Spider-Man, quand on a eu Grant Morrison sur les X-Men. Bon,
mais moi je te parle pas des débuts. Moi je te parle des débuts. Je te parle pas d'au bout de 5 ans d'univers Ultimate. Je te parle des débuts.
Ah mais JMS sur Spider-Man c'était l'année suivante. Hein. C'était 2001. Morrison sur X-Men c'était 2001.
On avait eu quelques années auparavant le cas Heroes Return. Hein.
Je peux te dire, mais c'est pour ça d'ailleurs, j'arrête pas d'y revenir. Le début des années 2000, pour moi, c'est mon âge d'or créatif. La période où j'avais chaque mois Ultimate Spider-Man par Bendis et Magley, et à côté le Amazing Spider-Man de JMS et Romita Jr. Mais j'étais aux anges. J'avais double dose de très bon Spider-Man. Je voulais avoir le Spider-Man frais des débuts, qui faisait encore des bêtises, qui découvrait sa vocation, j'avais Ultimate Spider-Man. Je voulais avoir le Spider-Man plus adulte, le Peter plus adulte, qui découvrait toute une nouvelle mythologie, qui affrontait de nouveaux défis, qui renouait sa relation avec Mary Jane. J'avais JMS. J'avais ces deux-là en même temps. Et c'était du bonheur. Voilà. Pour le fan de Spidey que j'étais, et que je suis beaucoup moins aujourd'hui, c'était un bonheur chaque mois. C'était, voilà.
On va parler un petit peu bah, justement de ce premier arc. On va prendre vraiment les débuts hein, de l'univers Ultimate, ce premier arc de Spider-Man que j'avais lu à l'époque hein, quand même, hein, parce que même si j'étais pas forcément super intéressé par cet univers, j'avais acheté les premiers avant de m'en désintéresser complètement. En fait, la fin du premier arc m'a désintéressé du truc. C'est con, mais passé la fin du premier arc, je me suis dit bah ouais, mais en fait, pourquoi faire? Vraiment. Le premier arc, c'est donc bah, Brian Michael Bendis et Mark Bagley au dessin. C'est ça qui faisait que bah ça m'avait aussi intéressé. Mark Bagley de retour sur Spider-Man, pour moi, c'était vraiment vraiment cool. Brian Michael Bendis, je ne le connaissais pas à l'époque. Un peu, on t'y va de façon fraîche. Hein. Mmh. Et il y a déjà une approche dans l'écriture qui est différente de ce que l'on voyait à l'époque.
Mmh. Ah bah c'est là le début de ce qu'on va appeler la décompression en fait. Puisque il prend grosso modo Amazing Fantasy 15 et là où Stan Lee et Steve Ditko le faisaient en 15 pages, lui il le fait en 5 épisodes.
Il y a même simplement dans la façon de parler, c'est ce côté très très série télé, pas de narration, que du dialogue.
Bah pas que du dialogue, il y avait aussi de la narration. Pas de la narration, on te dit ce qui se passe sur les pages, mais c'est-à-dire que les bulles de pensée disparaissent pour des cases de texte qui te montrent en fait ce que le personnage pense. Donc c'est pour ça que quand on dit les bulles de pensée ont disparu, non, elles ont disparu pour se transformer en une semi-narration en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans les comics à côté, tu avais encore des cases qui te présentaient des trucs. Là aujourd'hui, voilà. les cases qui te servent de narration, c'est juste pour te dire à quel endroit on se situe quoi. C'est ça. Le labo de machin. C'est, tout
bah, c'est une grande touche de modernité, effectivement, parce que c'était les cases de narration telles qu'on avait encore dans les années 90, c'était ultra dépassé. Ça a montré, en fait, dès le premier épisode, qu'on n'avait pas besoin de ce truc, que c'était une vieille relique, je dirais, des années 60-70, et que ça pouvait très bien disparaître sans gêner l'écriture.
On aurait pu tenter de les faire évoluer, mais on a fait un autre choix. Pourquoi pas faire un autre choix.
C'est pas tant qu'on a fait un autre choix, c'est que les lecteurs ont plébiscité justement cette évolution narrative.
Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à considérer ça comme une évolution narrative quand on voit où on en est aujourd'hui.
Bah c'est une dérive en fait qu'on a eu ensuite par la suite parce que la décompression en elle-même au départ ne me gênait pas. Parce qu'elle avait un sens. C'était on s'attardait plus avec les personnages, on passait plus de temps avec eux, et les moments qui nous étaient présentés n'avaient pas l'air gratuits ou vides en fait. Le temps supplémentaire passé avec eux n'était pas superflu. Ça apportait vraiment quelque chose au développement de personnages. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est du remplissage la plupart du temps. Voilà. J'ai rarement l'impression que tous les épisodes d'un arc sont indispensables. À l'époque, je trouvais toujours au moins un truc qui me faisait dire oui, cet épisode est important dans la narration. Si on ne peut pas le sauter parce que ça apporte ça, ça et ça. Aujourd'hui, quand j'ai un arc en 6, je me dis ouais, pourquoi vous n'avez pas coupé en 3 ou 4 en fait ? Ça serait passé. J'aurais pas eu l'impression de rater grand chose en fait. C'est ça la dérive. C'est le fait que les auteurs ont oublié qui a besoin d'avoir de la substance en fait dans chaque numéro. Ce que Bendis en fait arrivait à faire à l'époque. Moi, je te dis, j'ai relu la première année, j'ai pas l'impression d'avoir de superflu dans aucun épisode. Chaque épisode introduit quelque chose, fait avancer le personnage. Il y a un moment à chaque fois important à chaque fois. C'est voilà, chaque épisode est important et je peux pas passer de l'épisode 6 et passer à l'épisode 10 et me dire j'ai rien raté. C'est juste pas possible.
Bah celle qui te disait, sachez Monsieur Sam, que même si on est de 70, on n'est pas une vieille relique.
Je peux... Ouais. Je n'ai rien à dire, effectivement.
Nico qui disait...
On y arrive tous à cet âge, je te rassure.
Nico qui nous disait, en 2000, c'est la décompression, en 2020, c'est la dépression.
Oui.
Et Greg qui fait hashtag Team 70. Donc, parlons de...
On peut être jaloux de ceux qui sont nés en 70 parce qu'ils avaient 15-16 ans en 85-86. qui restent des années comics absolument ahurissantes.
Avec quand même moins de possibilités de se les procurer en France.
Ouais. Rappelons-le. Mais t'étais aux États-Unis. Bon, c'était un peu la folie des États-Unis dans les années 80, mais...
Parlons de ce premier arc, et je parlerai surtout, quand on en arrivera à la fin, de pourquoi j'ai arrêté l'univers Ultimate après ce premier arc. En tout cas, l'univers Ultimate Spider-Man. Et chose que je n'ai pas sur les X-Men. Et on y viendra.
Tu n'y es jamais revenu ensuite ?
J'y suis revenu, mais bien plus tard. Bien plus tard, en les lisant, genre 15 ans plus tard, quoi. 15 ans plus tard, et on en a eu rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que je lisais ça parce
c'est dommage. Voilà.
Non, mais enfin...
Ah bah c'est bien, on aura les deux expériences en fait.
C'est pas mauvais, attention, c'est juste que d'accord et voilà, tu vois. Encore une fois, pour moi, je ne cesse de le répéter. Faut comprendre que chacun lit les comics de façon différente. Je lis du Marvel, je lis du DC parce que ça s'inscrit dans un tout. Voilà. Une petite histoire à côté qui n'a aucun rapport, c'est très bien. Mais pourquoi me faire chier à lire une série de 150 numéros? Qui finalement n'apporte rien à l'univers principal.
Parce que c'est son propre univers, en fait.
Oui, mais encore une fois, je vais dire du comics Marvel. Ouais, j'ai envie que ça s'inscrive dans un tout.
Oui, mais t'avais un vrai univers Marvel Ultimate cohérent dedans. C'était pas juste Spider-Man perdu dans son coin. T'avais un vrai univers à part.
Il y a longtemps que j'avais arrêté et qu'il y avait autre chose qui me plaisait dans les univers principaux. Et pourquoi,
oui, oui.
Pourquoi
mais c'est pour ça que je te dis que c'est... Je reviens à mon argument de départ. C'est pour ça que je pense que ça a vraiment réussi à décoller cet univers Ultimate contrairement aux présentes itérations. Parce que justement, tu n'avais pas cette possibilité de te reporter sur l'univers principal à l'époque. Parce que l'univers principal était chiant.
Ouais. Si tu le dis. Mais c'est pas mon sentiment. Pas mon sentiment du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi après. On va faire le premier arc et je t'expliquerai surtout pourquoi le sixième épisode a été pour moi bah ok. Enfin peut-être pas forcément le sixième, plutôt le cinquième a été bah ok. Ok. Ça m'intéresse pas. Alors bah parlons de ce premier épisode où on va découvrir un Peter lycéen encore une fois. Le classique Peter Parker en fait.
Oui, c'est ça. Qui est isolé, qui n'a que très peu d'amis, qui a une relation bourgeonnante avec une Mary Jane qui a le même âge et qui, grosso modo, est sa voisine. Voilà.
Et qui n'est pas une fille uniquement party girl comme on nous l'avait présenté dans l'univers un peu plus réfléchi en fait, un peu plus
qui est en fait
un peu plus studieuse,
équilibrée, qui est une jeune fille, on va dire assez sérieuse de 15 ans.
Oui, voilà, elle est plus studieuse, c'est pas la party girl telle qu'on nous l'avait présentée dans l'univers principal. C'est très bien. Ça, de ce côté-là, ça change. On a l'ajout d'un nouveau personnage, Kong, qui est le pote de Flash Thompson, hein, qui tous les deux martyrisent.
Le Peter, comme d'habitude.
Peter. On voit un Harry Osborn un peu différent.
Oui. Plus sûr de lui, mais en même temps subissant la tyrannie de son père. Voilà. On retrouve les relations un peu d'origine, mais mises à jour.
Voilà, jusque-là, rien à dire. Hein. Puis bon, la traditionnelle visite au labo. Mm. Et Peter qui se fait piquer par cette araignée radioactive, enfin, cette araignée en tout cas modifiée génétiquement, qui va lui filer des pouvoirs. Un premier épisode double, hein, rappelons-le, qui permet de bien introduire le concept et de pouvoir raconter pas mal de choses. C'est comme ça qu'on doit lancer une série. Pour moi, toujours un épisode double pour lancer une série. Un épisode simple pour lancer une série, pour moi, est une hérésie.
Oui, ça s'est répercuté, je suis tout à fait d'accord avec toi, sur Ultimate Spider-Man des années plus tard, quand ils ont introduit Miles Morales. Parce que c'était un épisode simple, le premier épisode. Et c'était à chier. Parce qu'en fait, ça s'est arrêté au moment où ça aurait dû commencer. Voilà. Je crois que sur l'épisode de 22 pages, tu avais Miles Morales sur 6 pages, en fait. 6 pages. Tu introduis un nouveau personnage qui prend la succession et tu ne lui files que 6 pages. Et 6 pages où il ne fait rien, en fait. Alors que là, sur ce double épisode, qui pour moi est parfait, c'est pour ça que d'ailleurs, toi tu as arrêté au premier arc de Ultimate Spider-Man, première version, j'ai arrêté Ultimate Spider-Man, Miles Morales, au bout du premier arc de 5 épisodes, parce que arrivé au bout, je me suis dit, Ouais, mais en fait, t'as aucune idée de qui est le personnage. Voilà, 5 épisodes, tu n'as rien établi. Là, tu as 35 pages. À la fin de l'épisode, tu sais qui est Peter.
Oh, t'as même plus que 35 pages, hein, Sam. On est plutôt sur du 50 pages, en fait. Hein.
Ouais, c'est possible.
Mais c'est, non, mais pour moi, je veux dire, toute série, c'est, je veux dire, il y a même pas, je ne vois pas de raison de ne pas faire un épisode double pour accrocher ton lecteur. Je veux dire, même dans les séries télé, on a l'habitude de faire un pilote double pour accrocher. On t'en donne beaucoup dès le départ pour te montrer l'ensemble, et ensuite, ouais, tu y reviens. Mais pour moi, ça me paraît logique, et ça me dérange pas de payer plus cher mon premier épisode, de faire cet effort. Mais au moins, on m'en donne, tu vois, on me donne assez. Quand je vois des épisodes qui lancent des séries de 20 pages, mais c'est nul. Et ouais, c'est le problème que l'on a avec beaucoup de séries indées ces derniers temps, où à la fin du premier épisode, on se dit, d'accord. Et alors, il faut que je revienne pour la suite, pour savoir ce qui va se passer, enfin, pour que tu me donnes envie de revenir, ou alors tu lis la postface et t'as l'éditeur ou le scénariste qui te donne déjà plus d'infos que ce que t'as eu dans le premier épisode, et qui te donne envie de revenir. C'est pas comme ça qu'on doit construire un média séquentiel, je le rappelle. Un média sériel. Un média où on te dit, reviens pour la suite. Je n'achète pas un TPB, j'achète un single. Et si j'achète un single, donne-moi envie d'acheter le single suivant. Me dis pas, bah, t'auras l'histoire complète en 6 épisodes. Non. Enfin, encore une fois, on est sur cette façon de faire que je n'aime pas. Là, ça remplit très bien son office. Ça se finit avec un Spider-Man qui est au plafond, qui commence à comprendre qu'il a des pouvoirs. Alors oui, on connaît tous Spider-Man.
Ouais, mais t'es accroché. Justement, tu vois commencer à développer et découvrir ses pouvoirs. T'as envie d'aller voir l'épisode 2 pour voir où ça va aller.
Je pense que c'est ça, en fait, la métaphore de cette fin d'épisode, c'est que tu es accroché puisque lui aussi il est au plafond.
Oui.
C'est ça. Mais...
Et bon, on va parler donc Le Ben et Tante May. Meilleure réinterprétation, je pense, de l'univers Ultimate.
Alors.
Moi qui ne supportais pas Tante May,
juste avant qu'on passe sur ce passage, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire, je prends juste quelques réactions sur le chat que j'ai vu passer. Je vois par exemple Cap Cap qui disait parce que dans les débuts d'Amazing Spider-Man, notamment sur le fait de Mary Jane, etc., Gwen est devenue fade et sans intérêt avec l'arrivée de Romita Junior, et MJ a attendu la mort de ces dernières pour être traité un peu plus en profondeur. Oui, tout à fait. De toute façon, MJ est vraiment introduite bien plus tard. On n'avait introduit que Gwen Stacy au départ. J'allais dire Jean Grey, bravo. Ça, c'est le côté rousse.
Sachant que Gwen n'était pas non plus le personnage le plus profond de l'univers. J'ai réussi à mettre la main sur certains des épisodes de l'époque. Et grosso modo, elle commence à être intéressée à Peter. Pourquoi ? Parce que Peter l'ignore.
Et
voilà. Parce qu'il est tellement pris dans ses propres problèmes qu'il ne se rend pas compte. Hey, Peter, salut. Ouais, il passe et... Tout le truc de Stanley ensuite, c'est « Il m'a ignoré, je vais tout faire pour qu'il me remarque. »
Il y avait Grey aussi qui nous disait « On retrouve les personnages que l'on aura dans les films, en fait. » Et bien sûr, l'univers Ultimate a énormément contribué au film.
Ah oui, oui.
Ce qui ça, fait que je m'en désintéresse totalement, en fait.
Bah, je pense que c'était normal que les films s'inspirent grandement des séries Ultimate, parce que justement... Ça partait du même principe, à savoir réintroduire les personnages pour une audience moderne. C'est, on ramène les personnages, mais qu'est-ce qui se passerait s'ils démarraient aujourd'hui? Voilà. Et c'est, quand les films, les types d'Hollywood sont penchés dessus, ils se sont dit, ah bah oui, bah effectivement, c'est ça, en fait. Cool. On a un truc déjà prêt. Allons-y. Je veux dire, les films, le premier Avengers, c'est un bon gros repompage de Ultimate. T'as des hommages dans tous les coins.
Alors justement, revenons sur ce couple May et Ben, parce qu'effectivement, et tu commences à approcher la raison du pourquoi j'ai arrêté, Sam, à cause de May et Ben, ou plutôt à cause de Ben, parce que
non, c'est la meilleure interprétation de l'univers Marvel de l'univers Ultimate pour moi. C'est pour moi enfin les personnages fonctionnent, parce que Tante May je ne la supportais pas dans l'univers principal. Voilà, notre personnage n'avait aucun intérêt.
Donc
le Ben, j'avais pas d'attachement, puisque voilà, bon, d'accord, c'est la figure tragique de l'univers de Spidey, ok. Et là, il en fait des personnages auxquels on peut s'attacher.
Oui, et donc, tu comprends pas pourquoi j'ai arrêté ?
Non, pourquoi ?
Bah, la mort de l'oncle Ben. En quoi c'était utile ?
Parce que c'est la figure tragique.
Mais non, tu relances l'univers. Tu n'es pas obligé de stick à cet univers, de coller à cet univers. Tu n'es pas obligé de respecter tout à la lettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus accroché à X-Men au départ, quand les deux sont sortis. Hein. J'ai arrêté aussi l'univers Ultimate, parce que bon, au bout d'un moment, bah, y a trop de sorties et il faut que tu fasses des choix financiers, et puis que j'avais mon argent que je dépensais ailleurs. Mais c'est, enfin, pourquoi rester dans ce schéma? Ça marchait tellement bien. Avoir l'oncle Ben, on avait l'occasion de changer l'histoire. Pourquoi revenir? En fait, je me disais, c'est ça. Au départ, je me disais, ben, ok, tu relances l'univers Marvel, bon, c'est à part, ok. Tu nous montres, tu nous crées des nouveaux personnages, tels que Kong, tu nous changes le Green Goblin, tu nous fais une nouvelle version. C'est très bien. Et quand Ben meurt, je me dis, c'est nul. Quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt? Pourquoi devoir revenir et de coller, finalement?
Parce que comme je t'ai dit, je te laisse finir.
Non mais enfin, je me suis dit là, on avait l'occasion, tu vois, de s'émanciper. On connaît Spider-Man, on connaît le principe. On avait l'occasion de s'émanciper. Pourquoi ne pas avoir tué May cette fois-ci? Pourquoi ne pas avoir gardé Ben, qui était une véritable figure paternelle pour Pete? Pourquoi ne pas explorer un peu plus avant, puisqu'on en a l'occasion? On ne doit rien à l'univers Marvel au final. On n'est pas obligé de coller à cette réalité-là. Et j'ai été terriblement déçu de la mort de l'oncle Ben et qu'on n'ait pas cherché à explorer un peu plus avant. Pete qui se confie à Ben. Pete qui, enfin, il y avait des possibilités. Alors, ça aura été exploré plus tard, dans d'autres choses. Bah, je crois que c'était dans Season 1 que ça avait été exploré avec un Ben qui était finalement au courant, même s'il finit par casser sa pipe. Et on aurait pu faire casser la pipe à Ben plus tard. On aurait pu garder Ben vivant un peu plus longtemps. Tu vois? Que le grand pouvoir, grande responsabilité, Ben lui dise, mais qu'il est pas, y a pas besoin de sa mort pour faire pencher Pete, ou peut-être simplement avoir un Peter Parker qui découvre sa vocation de héros peu à peu, avec pour l'épauler justement l'oncle Ben. On n'était pas obligé de coller à ça, et en fait ça m'a terriblement déçu de voir cette mort de l'oncle Ben. Je me suis dit, bah si c'est pour me répéter la même chose, ça ne m'intéresse pas. Et alors, c'est pour ça que j'ai arrêté.
Je vais essayer de présenter des arguments contraires. Pour moi, c'était le passage obligé. Parce que, comme je te l'ai dit, le principe de l'univers Ultimate, c'était de revenir aux bases des personnages. De dire, ces personnages et ces concepts fonctionnent. 40 ans plus tard, ils fonctionnent toujours. Il n'y a pas besoin de les chambouler et de les changer de manière profonde. Ils ont juste besoin d'un peu de dépoussiérage. Et la mort de l'oncle Ben est un élément capital de la mythologie Spider-Man. C'est un élément fondateur. C'est ce qui va entraîner tout cette pensée du « un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités ». Et cette phrase, ce mantra, cette devise de Spider-Man, qui est au cœur du personnage, ne peut pas avoir ce même poids si Ben reste en vie. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a besoin d'avoir cette tragédie au début. Parce que sinon, le personnage ne fonctionne pas.
Eh ben non.
Voilà.
Parce qu'il
y a cet élément de culpabilité, en fait. Au fond. Il y a cet élément, j'aurais pu empêcher ça, je ne l'ai pas fait, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de le réparer en sachant que ça n'arrivera pas.
Mais, encore une fois, pour moi, ce n'est pas... Enfin, on avait la possibilité de faire autre chose. Il y aurait pu avoir la mort d'Harry Osborn. Je commençais à confondre. Ça aurait pu être la mort d'Harry Osborn, ça aurait pu être la mort de son pote, ça aurait pu être la mort de MJ, ça aurait pu être n'importe quoi. Pourquoi répéter le même schéma, en fait? Et c'est pour ça que ça m'a déçu, que je me suis dit, d'accord, bah si c'est pour relire la même chose, juste moderniser, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Si c'est pour que ça suive le même chemin... En fait, il me proposait une histoire différente avec un oncle Ben auquel on savait le temps de s'attacher et qui était intéressant. Et en fait, finalement, pour ne rien en faire, rien de plus que ce que je n'ai déjà lu. Donc, ça ne m'intéressait pas. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais prêt à donner la chance à l'univers parce qu'au départ, je me disais, bon, bah, me répéter, remoderniser les origines, ouais, c'est bien gentil, mais ça va servir à quoi? Ok, mais... voyant que la tournure que ça prenait avec oncle Ben qui était présent... Justement, là où tu t'attends à ce qu'il meure, eh ben tu changes la donne et tu surprends encore plus ton lecteur. Et finalement, c'est rentrer dans le même schéma. Bah ouais, l'intérêt que j'avais pour le titre a fondu complètement.
D'accord.
Et c'est pour ça que j'avais arrêté de lire Ultimate Spider-Man. J'ai continué à lire les X-Men un petit peu plus longtemps, mais bon, pas beaucoup plus, surtout parce que bah, financièrement, je pouvais pas acheter 12 millions de titres, quoi.
Bon, là, on va être en désaccord. Donc.
Mais c'est ça, c'est vraiment le concept de pourquoi se borner à répéter le même schéma. Tu pouvais faire ce trauma à Pete avec plein d'autres personnages. Il y avait plein d'autres possibilités.
Pour moi, ça devait être Ben, vraiment. C'est consubstantiel du personnage. Il fallait que ce soit un membre de sa famille.
Et ben, pourquoi pas May?
Pour changer. Parce qu'il fallait un contrepoint qui soit différent, en fait. Parce qu'il y a toujours eu cette idée, je ne peux pas lui dire parce qu'elle ne va pas le supporter. Je ne peux pas lui révéler mon identité. Et il devait y avoir cet élément de culpabilité vis-à-vis de quelqu'un qui, je pense, lui était plus proche, en fait.
Il y a Greg qui nous dit, il faut aussi se souvenir que quand l'univers Ultimate est lancé, les TP ne sont pas encore ce qu'ils sont maintenant. Pour de jeunes lecteurs, l'accès aux vieilles histoires n'est pas forcément évident.
C'est tout à fait ça. Sachant que les omnibus ne débarqueront qu'en 2002-2003, et les rééditions, en fait, de vieux épisodes comme ça, en fait, ça existait, mais c'était à l'épisode, en fait. C'était, je vous ressors l'épisode comme ça, et faut l'acheter quand ça sort, en fait. Mais ça s'arrêtait là. Il y avait quand même quelques TP, alors, ça s'est développé, ça a commencé à apparaître principalement à la fin des années 80. Voilà, quand on a commencé à rééditer des trucs comme Watchmen, Dark Knight Returns, mais on voit que c'était très limité à certaines séries qu'on voyait comme prestigieuses, en fait. Et ça devait être pareil pour Marvel. Et à la fin des années 90, on avait ces petits TP qui rassemblaient quelques épisodes, mais qui venaient de sortir. Donc c'était pas vraiment encore des TP. Et c'est vraiment avec la ligne Ultimate que ça a commencé à s'imposer.
Après l'histoire est bien racontée, il y a des twists intéressants, il y a des choses sympas, le fait que il a été repiqué quelques idées par-ci par-là et même des idées que l'on n'aime pas, mais le fait que Doc Ock travaille avec Norman Osborn, pour moi c'est une bonne idée. Ça reste une bonne idée, ça reste un des bons apports de Chapter One.
Un commentaire parce que tu as évoqué Chapter One.
Ben oui, mais faut s'y rendre les choses où elles sont. Il y a un moment. Il y a des choses mauvaises, d'accord, mais quand il y a une bonne idée dans une chose mauvaise, ça n'empêche pas qu'elle soit mauvaise. Mais on peut saluer cette bonne idée. Je trouve que c'est cohérent. C'est cohérent d'avoir un gros labo scientifique comme ça. Il n'y en a pas 50 000 non plus des gros labos scientifiques.
Certains nombres, mais oui. Mais ça a permis de lisser un peu les choses et de les rendre plus compréhensibles et d'introduire de manière un peu plus organique les personnages.
Voilà, et Doc Ock ne fait pas son apparition tout de suite en plus.
Il revient au 14 et en fait ses origines sont liées justement au moment où Norman Osborn tente de recréer l'incident qui a créé Spider-Man.
Ouais, quand le labo explose.
C'est ça. Mais
voilà, là on a pris son temps et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien. Et c'est pour ça, c'est que jouer avec les codes de « Ah, vous connaissez le docteur Octopus, voyez, il est là, mais il est pas encore Octopus. » Et finalement avec ce côté de tout peut arriver, tout peut changer. C'est un nouvel univers, on recommence à zéro, on peut tout modifier. Et finalement, se borner à rester très proche de l'histoire principale, ça m'a déçu. Et je me suis dit, bon bah, je vais retrouver exactement les mêmes choses par la suite. Bah non, c'est pas pour moi. Je voulais lire quelque chose de différent. Je voulais lire quelque chose de plus fantaisiste avec le concept. Alors je demande pas que Spider-Man d'un seul coup se mette à voler et tirer des rayons laser avec ses yeux, j'ai Superman pour ça. Mais qu'on torde le concept, tu vois, c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé un peu plus de fantasy. Un peu plus d'amazing fantasy, même. Oui, c'était pourri, je sais.
Joli.
Je suis trop malade pour ça. Pardon. Mais après, ça reste bien écrit. Peut-être un poil verbeux, des fois, quand même.
Quelques fois, mais sur certaines pages, ça reste. C'est encore une période où Bendis arrive à se retenir, en fait. À rester à l'essentiel.
Par exemple, l'épisode 6. Je prends juste l'épisode 6. Tu as l'introduction de Jonah Jameson. Mm-hmm. Donc tu te dis, ah, putain, Jonah Jameson, est-ce que Peter Parker va travailler pour le Daily Bugle? Et t'arrives à la fin de l'épisode, bah, toujours pas. Mm-hmm. Il est juste là. Tu vois, on joue avec l'univers normal, l'univers classique, en te mettant des personnages que tu connais dans ce nouvel univers, et en te les modifiant. Et c'est là que tu te dis, ah, il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir quelque chose. Qui, finalement, n'arrive pas. On revient au même schéma, tu vois. Et c'est ça que je trouve un petit peu gênant avec l'univers Ultimate.
Je comprends. Alors personnellement, ça faisait partie justement des choses que j'aimais, qu'ils ne changent pas en fait ce qui fonctionne. Voilà, c'est la vieille formule, pourquoi réparer ce qui fonctionne. Et pour moi, il y a des choses dans Spider-Man, les X-Men, les Avengers, il y a des choses qui fonctionnent de base, du coup, qui sont propres au concept d'origine, qui n'ont pas besoin d'être modifiées. On a besoin de les rafraîchir de manière régulière, parce que quand on arrive dans une nouvelle décennie, il y a toujours un nouveau lectorat qui arrive, toujours de nouveaux auteurs, t'as besoin de les réinterpréter pour que ça colle à l'époque. Mais foncièrement, si ces personnages, ces concepts et ces séries ont duré aussi longtemps, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui est intemporel et qui n'a pas besoin d'être modifié. Voilà. Si Superman, on continue à faire des comics sur le personnage, à faire des films, à sortir un milliard de trucs autour, c'est qu'en 80 ans, il y a quelque chose qui est intemporel et qui restera.
On va passer à l'autre partie de cette introduction de l'univers Ultimate, parce que en plus Gray pose la question, donc je trouve que c'est un bon moment pour passer dessus, puis après on donnera aussi un avis général et un avis sur la VF qui est très important selon moi, beaucoup plus important que la parution VO. On a eu beaucoup de chance en France et je garde ça pour tout à l'heure. Gray nous disait, je n'ai jamais lu les Ultimate X-Men ou FF. Est-ce que ça se lit bien? Ben justement, on va passer très rapidement au début de l'univers X-Men, puis on prendra après sur le deuxième arc un peu plus loin, on avancera un peu. Le Ultimate X-Men avec cette fois-ci Mark Millar au scénario et Adam Kubert au dessin.
Aidé par son frère Andy assez vite.
Ouais.
Donc c'est Kubert Fiesta, ce que moi me satisfait grandement. Voilà, parce que quand même les frères Kubert, ça reste parmi les meilleurs dessinateurs que la franchise X-Men ait connue, quelle que soit l'époque. Et il y a eu des grands dessinateurs. Et c'est une... Je vais être honnête, c'est la série qui m'a le moins séduit dans l'univers Ultimate. Alors, je sais que ça tient au fait que Mark Millar lui-même ait déclaré que les X-Men, c'est une série à laquelle il n'a jamais vraiment accroché.
Voilà. Ben, donc, il y a pas assez... Et qu'il ne connaissait pas beaucoup. Justement, c'est pour ça que j'avais préféré, à l'époque, Ultimate X-Men.
Parce qu'il avait pas le respect, qu'avait Bendis, par exemple, par rapport à Spider-Man. Parce que quand tu lis Ultimate Spider-Man, sur chaque page, tu sens Bendis qui adore Spider-Man. Il adore ce personnage, il a la voix du personnage, il le connaît et il le respecte. Là, tu as un Mark Millar qui, justement, parce qu'il n'a pas cette culture préalable, parce qu'il n'a sans doute pas lu la série pendant quand il était gosse, quand il a grandi, quand il est devenu adulte, il n'y a pas cette trace dans son passé de lecteur, et du coup, il n'a pas les réserves en fait qu'a un Bendis.
Et c'est pour ça que pour moi ça a beaucoup mieux fonctionné que j'ai lu Ultimate X-Men plus longtemps, parce qu'on a quelque chose de différent. Il a pris les bases, puisque de toute façon l'univers Ultimate c'est de reprendre les codes de base et ensuite de s'en échapper et de créer une nouvelle mythologie. Et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on a une équipe de X-Men qui au départ est quand même un mélange d'un peu tout. On a Cyclope et Jean Grey, on a Beast. On a Iceman qui va rejoindre l'équipe très vite, et on a Colossus et Storm.
Bah, dès le premier épisode, en fait.
Ouais, et on a déjà un truc différent. On aura Wolverine qui va venir, parce que bon, de toute façon, Wolverine est un argument vendeur.
C'est d'ailleurs pour ça. L'épisode 2.
Oui, il a introduit.
Alors, ce que j'aime bien. Il apparaît à la fin de l'épisode 1.
Il apparaît sur la dernière page de l'épisode 1, mais il est quand même en cover du premier épisode. Parce que déjà, cover mensongère, hein. En 2001, on se gênait pas non plus, hein.
Oh, on se gênait pas dans les années 60 aussi, je pense, hein. Voilà. J'ai toujours moins accroché à cette version, même s'il y a des bons passages. Là, j'en ai relu certains là aussi cet après-midi.
J'ai relu les deux premiers arcs, moi, justement pour l'émission. Comme j'ai relu les deux
qui
premiers arcs.
Qui reste les meilleurs Soyons honnêtes, ça reste les meilleurs. Alors, c'est pas tant que le Millar se soit moins investi par la suite, mais en fait, il est tombé malade lors du reste de l'écriture de la série. Il a déclaré que même certains épisodes, il les avait écrits sur son lit d'hôpital. Donc, je ne préfère pas trop balancer, mais clairement, le niveau a baissé par la suite. Les deux premiers arcs restent les meilleurs, s'attaquent à des éléments de mythologie les plus importants, donc le premier arc très classique, introduction des Sentinelles et confrontation X-Men Magneto. Donc, on revient aux bases et aux classiques. avec un Magneto plus tordu que ce qu'on le connaissait.
Et bah, le plus second... méchant des années 2000, hein, beaucoup plus rentre dedans, qui n'hésite pas à tuer, pas le méchant, tu sais, je vous menace, et en fait, il tue jamais personne. Là, on a affaire à un vrai méchant. Je dis pas que c'est bien, mais c'est plus...
C'est plus unidimensionnel, plus efficace, oui, plus...
C'est plus avec l'époque. De toute façon, tout l'univers Ultimate est construit, que ce soit chez Bendis avec son Spider-Man, comme chez Millar avec son X-Men, comme du gros blockbuster, du gros film d'action.
Quoique, je pense que la grande différence, c'est que Bendis, ça reste très centré sur le personnage, très focalisé sur Peter, alors que Millar, lui, il écrit véritablement ça comme un film. Avec des caractérisations passablement superficielles. Voilà. Tu sors de la première année du titre, t'as pas l'impression qu'il ait établi grand chose en termes de caractérisation. Voilà. T'as Wolverine qui est à peu près bien défini, Xavier et Magneto aussi, ça s'arrête à peu près là. Voilà. Wolverine est un enfoiré, mais tu comprends un peu pourquoi. Et c'est tout. Voilà. Jean Grey peut être un peu impertinente, un peu plus jeune, mais le reste, c'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai moins décroché la série. Tu sens en fait que Millar se fout complètement des personnages. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il écrit ça parce qu'il comprend que c'est sa chance pour exploser. Il compense en fait son manque de caractérisation, son manque d'affect pour chacun des persos en balançant des grosses scènes. Voilà. Et en s'attaquant à ce qui était alors des tabous de l'univers Marvel principal. Donc tu le dis, un Magneto beaucoup plus rentre dedans et qui tue sans aucun problème, Wolverine qui couche avec Jean Grey, Cyclope qui rejoint Magneto, les X-Men qui sont prisonniers par Weapon X.
Je vais quand même pondérer ce que tu dis, Sam. N'oublie pas que d'un côté, Bendis, il a un personnage à écrire, et que là, lui, il en a 80.
Bah, c'est aussi sa faute parce qu'il en introduit 80 dès le départ.
On sait très bien que les X-Men, c'est une série d'équipes, et en face, on met une équipe de mauvais mutants. Il prend les codes de base de ce que n'importe quel noob des X-Men peut imaginer. Il s'est vachement d'ailleurs basé sur le dessin animé qui sortait à l'époque pour voir un peu la caractérisation basique des personnages puisqu'il ne les connaissait pas bien. Ce qui est pas forcément une bonne chose, mais au moins pour se donner une idée de ce qu'il allait écrire. Je dis pas que ça excuse tout. Attention, hein.
C'est marrant parce que Ultimate X-Men, Spider-Man, alors que c'est la meilleure série, toi, tu défends Ultimate X-Men et Millar.
Attention.
Je pensais pas voir ce jour arriver un jour.
Je dis pas que ça excuse tout et je dis pas que son run est réussi. Je dis juste qu'il apporte la touche de fraîcheur que j'attendais de l'univers Ultimate. C'est-à-dire vraiment des personnages qui ont des façons de réagir différentes, qui sont, oui, physiquement les personnages que je reconnais, mais des personnages différents. Quitte à tout recommencer à zéro, eh ben, propose-moi quelque chose d'autre. Pourquoi revenir exactement à la même chose, tu vois, c'est... En fait, tout dépend de ce que t'attends.
Le problème, c'est que ce qu'il a introduit à la place est beaucoup moins intéressant. Comme je te dis, les personnages sont vaguement définis et sont vachement moins intéressants. Alors que, comme je te dis, la grande différence avec Ultimate Spider-Man, c'est que dès le premier épisode, je voulais suivre ce personnage, cette portion de l'univers. Ultimate X-Men, ouais, c'est sympa. C'est un blockbuster. Ouais. Ah, c'est le grand film à 300 millions de dollars que tu vas voir. Et ça s'arrêtera là.
C'est ça.
J'ai beaucoup moins d'affect. Voilà. Autant Ultimate Spider-Man, je suis tombé amoureux du titre dès le premier épisode. Autant Ultimate X-Men, c'était la série que je suivais. Un, parce que j'étais fan des X-Men. Deux, parce que c'était l'autre pendant de l'univers Ultimate et que je voulais voir cet univers se développer. Voilà.
J'ai vu plusieurs fois passer la remarque hein, sur le chat, donc on va l'adresser maintenant, concernant Nick Fury. Le Nick Fury de l'univers Ultimate. Il est introduit dans X-Men par Mark Millar et il est déjà black. Au départ, il est pas blanc, il est déjà black dès le départ. Ce sera que à partir de la série Ultimate qu'il gagnera ce visage de Samuel L. Jackson, qu'il n'avait pas au départ. Hein. Il est introduit par justement Tom Raney au dessin et voilà, c'est le Nick Fury, il est juste black. Ça ne fait pas de différence quoi. C'est après qu'il y aura vraiment ce visage à la Samuel Jackson qui maintenant collera toujours à Nick Fury puisque même le Nick Fury de l'univers principal est comme ça maintenant.
T'as voilà. Commenté.
Hein, avec son fils qui le remplace.
Cette magnifique mini-série à laquelle je n'ai pas lu. C'est-à-dire que C'était tellement con. C'était Battle Scar, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc comme ça.
C'est tellement con que je refusais d'y croire, en fait. C'est, je crois que j'avais vu ça sur un article sur le net et parce que j'avais pas lu le truc. C'était une conséquence de Fear Itself. Donc j'allais pas lire ça. Évidemment. J'avais déjà pas lu Fear Itself, j'avais pas lu lire ce qui allait suivre. Je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est tellement con. Ils ont pas osé, quand même. Ils ont pas osé. C'est tellement débile.
Non, attends, plus c'est gros, plus ça passe, Sam.
Non, ça devait être plus tard, parce que c'était avec le MCU que ça a commencé.
Mais Battlescar, ça doit être 2013, 2012, 2013, hein.
C'est ça, ouais.
On avait déjà l'univers...
Ça devait être AVX, alors. Et pareil, même sanction, j'avais pas lu AVX parce que c'était de la chiasse.
En fait, avant que Nick Fury devienne le Watcher on the Wall, là, qui remplace le gardien de
chez Paco. Qui est pas une idée conne, mais
qui serait bien une idée, voilà, qui serait pas une idée conne si elle est servie à quelque chose. Là, elle sert à rien.
À part une apparition dans la série Exilée qu'on a vue par la suite.
Et dans la série Bucky, qui était sortie juste après, vite fait.
Voilà, que personne n'a lu.
Voilà, comme la série Exilée, en fait.
Qu'est-ce que vous avez fait du perso? Rien du tout.
Donc, en gros...
Si vous installez un truc, utilisez-le.
En gros, on a un... Pardon. On a un Nick Fury qui apprend...
Mieux que ton père, oui.
On a un Nick Fury qui apprend que... Ah bah, en fait, il a eu un fils.
Hein. Oui, mais qui savait pas.
Et bah, finalement, comme par hasard, son fils se fait arracher le même œil, hein, et puis bah, quand son père disparaît, c'est lui qui redevient... Enfin, bon, allez.
Il se fait appeler Nick Fury, sauf qu'il a un autre nom là-bas. Mais c'est pas grave.
Ouais, mais il se fait appeler Nick Fury comme son père. C'est vrai que du coup, on peut les confondre. Hein, c'est...
Bref,
ça c'est la volonté marvelienne, et c'est quelque chose, c'est pour ça que les années 2010 me font chier, c'est la volonté marvelienne de se dire, ah regardez, ça a marché au cinéma, pour que les gens qui voudraient acheter des comics par la suite s'y retrouvent, eh bien on va leur mettre ce qu'ils ont vu dans les films, dans la continuité principale. Et j'ai toujours un problème avec ça.
Et j'ai un problème avec ça. Ça n'a jamais fonctionné. Le personnage ne fonctionne pas, et personne ne s'en sert. Voilà. À part quelques apparitions en guest ici ou là, ce personnage n'intéresse aucun auteur, aucun éditeur.
Et c'est pour ça que, tu vois, ce genre de choses-là dans un univers Ultimate me dérange moins, puisque c'est pas dans la continuité principale, quand ça vient et qu'on me l'enfonce dans la gorge façon Deep Throat, dans l'univers principal, ça me gêne. Je m'en fous, moi, qu'il y ait des noobs qui ne comprennent pas que « Ah ben, c'est pas le même Nick Fury qu'au cinéma. » Eh ben ouais. Et alors ?
Ben bon, tu me tends la perche pour qu'on évoque la grande série de l'univers Ultimate.
Alors, juste avant, je voudrais qu'on parle juste d'Ultimate X-Men et de Ultimate Spider-Man. Mmh. La façon dont ils sont sortis en VF. Parce que en VO, il y a eu quand même quelques mois de décalage avant qu'Ultimate X-Men soit lancé. On a eu d'abord Ultimate Spider-Man qui est sorti en septembre, comme tu le disais.
Ultimate Spider-Man est sorti en septembre et Ultimate X-Men en décembre.
Voilà, on a eu quelques mois de décalage en VF. Et Marvel France à l'époque, où c'était déjà devenu Panini, je ne sais plus, a bien fait le truc puisqu'ils ont sorti, ils ont sorti conjointement. En fait, les épisodes sortaient de façon bimestrielle. Et on avait donc un mois Ultimate Spider-Man, un mois Ultimate X-Men. On avait les deux en même temps, et c'était vachement bien. Je trouve que c'était une bonne façon de lancer l'univers. T'avais l'impression qu'il y avait un univers. Et ça, je veux dire, la VF, ça a été quand même vachement mieux géré qu'en VO.
Bah, je pense que c'était aussi leur volonté, un, de tester le marché pour voir si la série Ultimate fonctionnait véritablement. Il n'y avait pas de doute dans leur esprit qu'Ultimate X-Men fonctionnerait. Voilà. On était alors encore dans la traînée du sommet de la popularité des X-Men, qui restait la meilleure vente du marché, quoi qu'il arrive. Mais il y avait effectivement ce côté un peu décalé. Donc je pense qu'il y avait une volonté de faire fonctionner la ligne Ultimate, mais en même temps, on se disait, ouais, on va prendre son temps pour le faire. Plutôt que de lancer 4 séries en même temps.
Et Nico qui nous dit, mais tout était mieux avant, tout. Et Pascal qui répond non. Oui, je suis d'accord, tout n'était pas mieux avant. Il y a une époque où on n'avait pas Internet, il y a une époque où on n'avait pas l'électricité, donc non, c'était pas forcément mieux avant.
Non.
Tu remarqueras que j'ai placé Internet en premier. Mais écoute, sans Internet, on ferait pas cette émission, donc finalement, c'est utile.
Tout à fait. Et donc, après Ultimate X-Men, avant que tu aies encore quelque chose...
Non, vas-y, je t'en prie, j'allais te lancer là-dessus, sur Ultimates, justement.
Ultimates, qui pour moi, avec Ultimate Spider-Man, les deux premiers volumes resteront sans doute ce que l'univers Ultimate a fait de mieux. Donc, écrite par Mark Millar, et cette fois-ci un Mark Millar véritablement investi, et dessiné par un Brian Hitch, qui est sans aucun doute au sommet de son art, en fait, sur ce run, tout entier, qui va, on peut le dire, je pense, révolutionner ce qu'on pensait pouvoir faire dans un comic book jusque-là, en termes d'action, en fait. C'est,
Alors, on va quand même préciser qu'ils en étaient pas à leur premier coup, les gamins. Hein. Enfin, les gamins. Façon de parler. T'as le vieux qui parle, quoi.
Oh. Non, puisque, de toute façon, Mark Millar et Brian Hitch sortent tous les deux d'un run sur Authority. Pas voilà. Avec le même auteur, puisque Brian Hitch était avec Warren Ellis, et Mark Millar avec Frank Quitely. Donc, ils sont pas à leur coup d'essai.
C'est ça, c'est que du coup finalement on a pris le dessinateur du premier année d'Authority, on a mis le scénariste de la deuxième année d'Authority et on les a mis ensemble, on leur a dit faites Authority mais version Marvel.
C'est ça. Mais en même temps ça montre aussi l'importance que le titre avait à l'époque, mais l'impact que ça a eu.
Ça montre aussi à quel point Quesada allait gratter la partie indé pour trouver les nouvelles stars, c'est ce qu'il avait déjà fait avec Brian Michael Bendis. Ouais. Le mec allait chercher, il regardait, il avait un véritable coup d'œil venant lui-même de l'indé, Joe Quesada, rappelons-le. Je veux dire, c'est pas, enfin, le mec avait fait plein de titres en indé avant. Il avait aussi travaillé chez les Big Two. Et le mec a pas oublié ses racines-là. Il s'est dit, c'est là-bas que les auteurs évoluent, c'est là-bas qu'ils gagnent des lettres de noblesse et qu'ils apprennent la façon de travailler et qu'après ils sont prêts à devenir des grandes stars. Eh ben, ramenons-les. Et en plus, on peut les payer un peu moins cher.
Oui, pour commencer, mais ensuite faudra les augmenter si ça marche. Mais
bien sûr,
grave, ça marchera.
Attends, enfin, c'est quand même aussi un argument, mine de rien.
Ouais. Et c'est vrai que ça reste les deux principales nouvelles voies des années 2000, ou du moins du début des années 2000, qui vont mine de rien, notamment Bendis, révolutionner Marvel pendant un sacré bout de temps. En bien et en mal, mais il y a eu beaucoup de bien. Donc effectivement, Ultimate Spider-Man et Ultimate, qui vont justement, moi, m'apporter, et là je vais partager mon expérience de lecteur, ce que j'attendais en fait des séries Avengers depuis très longtemps. C'est-à-dire, non pas cette espèce de vénération pour les runs des années 60-70, puisqu'on aimait se rouler dans la fange, c'est pour ça que voilà, le run de Kurt Busiek, j'ai toujours autant de mal. Il y a cette espèce de vénération du passé. Je comprends. Comme je l'ai dit, j'apprécie le respect de la continuité, surtout sur mes séries X-Men. Voilà, faut pas y toucher, il faut la respecter. Mais je déteste quand on va se rouler dans la fange de la nostalgie, quand on va reprendre des intrigues passées pour ne rien en faire de neuf, juste pour dire j'ai aimé cette intrigue donc je la refais. Parce que j'ai l'impression franchement que le run de Busiek c'est essentiellement ça. C'est Busiek qui nous dit j'ai aimé certaines intrigues de voilà la grande ère des Avengers, donc je l'ai refait. Et Millar, c'est absolument pas ça. C'est, on va faire des Ultimates, la plus grande équipe de l'univers Marvel, ou de l'univers Ultimate dans le cas présent, et on va en faire une série des années 2000. Voilà, le 21e siècle a commencé, faut l'accepter. Faut arrêter de décrire les Avengers comme si on était encore dans les années 60-70. Faut arrêter de dessiner les Avengers comme si on était encore 40 ans dans le passé. Faut adopter les codes modernes.
Et on a du coup des héros qui sont totalement ambivalents.
Qui sont, et c'est ce que
des connards.
J'aime beaucoup sur cette série, qui représente en fait l'ensemble du spectre politique possible. Tu as un Captain America qui est foncièrement conservateur, ce qui est logique, puisque le mec sort littéralement de 1945 et débarque en 2002, donc évidemment qui va avoir des concepts politiques en tête qui sont issus de 1945. Penser qu'il va approcher le 21e siècle avec une pensée moderne alors que le mec a été décongelé 5 minutes plus tôt et que pour lui dans sa tête on est encore en 45, c'est complètement con.
Il y a Pascal,
il y a vraiment ce côté hors du temps justement qui est parfaitement utilisé. Tu as un Thor qui est une espèce de hippie anti-mondialiste. Tu as Tony Stark qui est grosso modo le représentant de la classe dominante. Voilà, qui est le riche de la bande qui n'a quasiment aucun contact avec la réalité. Tu as voilà des scientifiques un peu paumés qui sont dans cette course à l'armement surhumain et qui sont tellement déconnectés de tout que il y a que la recherche qui fonctionne. il y a véritablement tout ça, en fait. Et Nick Fury qui représente l'interventionnisme américain pur jus, en fait.
Il y avait Pascal qui disait, je dirais même plus que le 21e siècle, monsieur Sam, je dirais le troisième millénaire a commencé. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cet esprit, c'est le troisième millénaire. Au-delà même du 21e siècle, il y a vraiment cet esprit troisième millénaire. On change tout, quoi. On change tous les codes, on casse tout. C'est vraiment une nouvelle ère. Une nouvelle ère, en fait. Clairement. Je t'avoue que les Ultimates, j'ai eu beaucoup de mal.
Ça reste, pour moi, le meilleur boulot que Mark Millar ait jamais pondu. Même si, voilà, je comprends qu'on ne puisse pas accrocher parce qu'il y a toujours ce cynisme froid qui nimbe un peu tout ce qu'il écrit. Mais il a changé de style narratif sur cette série de manière extrêmement profonde. Il l'a dit lui-même parce qu'il écrivait ça comme les chapitres d'un roman. Et ça se ressent dans l'écriture. Chaque épisode est un chapitre où il va avant tout se concentrer sur les personnages, leurs relations, leurs échanges, avec, entrecoupé, ces gigantesques scènes d'action telles qu'on n'en avait jamais vues dans les comics. C'est surtout des comics Marvel. Enfin, on ne le redira jamais assez, mais le coup de pied au cul que Brian Hitch a apporté à la manière dont on représentait l'action dans les comics de super-héros, c'est hallucinant. Qu'on avait ces grandes scènes d'action dans les années 90, en double splash page, qui partaient dans tous les sens et qui étaient illisibles. Là, tu as quelque chose qui est extrêmement cinématographique et extrêmement lisible. Quand je lis une scène d'action dessinée par Brian Hitch, qui est à 400% sur chaque page, qui te remplit ça de détails, je suis jamais perdu. Je sais ce qui se passe, je sais ce que fait chaque personnage, je sais comment il bouge. C'est superbe, en fait. Visuellement, c'est une claque totale. Et en termes d'écriture, tu as vraiment cette espèce de contre-pied total où tu dis avec un auteur comme Hitch au dessin, tu vas avoir que de l'action dans chaque épisode. Ben non. Tu as de l'installation. Tu as un Millar qui prend son temps pour justement installer les personnages et leurs relations, leurs échanges et la manière dont tout cela va fonctionner. Tu as un propos politique derrière qui est indéniable. Parce que c'est, faut voir ça véritablement comme une espèce de critique absolument féroce du début de l'Amérique post 11 septembre. Ça, c'est, enfin, la manière dont le 11 septembre a influencé cette série est évident. Mais même s'il n'y avait pas le 11 septembre, ça resterait une critique de l'Amérique de Bush. C'est de l'Amérique obsédée par les célébrités, obsédée par le fric, obsédée par
Millar, Millar qui critique les gens obsédés par le fric, excuse-moi, ça me fait doucement rigoler, quoi.
Oui, c'était l'époque où c'était encore un gauchiste, hein, Millar, donc, ouais. Ah, on a gauchiste, non pas de manière péjorative, je le dis tout de suite.
On le voit déjà très bien, il représente Bush déjà dans les Ultimate X-Men, et c'est aussi le défaut, peut-être, un des défauts principaux de Ultimate, de l'univers Ultimate, pardon, et pas de Ultimate, de l'univers Ultimate général, c'est que, à vouloir trop l'ancrer dans le réel, et dans le temps présent, ça en fait des comics datés. Mmh. Parce qu'on a toujours ce problème de comment avance le temps dans les comics, puisque entre deux singles se passe un mois, parce que les comics sortent tous les mois, et forcément, les personnages ne vieillissent pas à la même vitesse, et on a toujours ce flou sur, on avait pendant un très longtemps...
Le président qui est truc, ouais, qui est machin.
Voilà, et puis pendant très longtemps, on avait ce côté... un an réel chez Marvel, c'est 5 ans chez nous,
oui.
qui n'est pas forcément une véritable règle parce que elle a été modifiée.
Ça s'est figé aujourd'hui. Et ça s'est figé, faut arrêter parce que ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne pour les gosses, en fait. Quand ils ont besoin de faire avancer les ados, effectivement, une année va avancer très vite pour eux, mais pas pour les autres personnages.
Et c'est ça, et c'est le problème. C'est le problème des comics et le fait de l'ancrer.
Ce qui fait marrer, c'est que tu disais avoir Bush dans la série, ça vieillit la série. Sauf qu'en fait, je pense que aujourd'hui, tu peux relire la série, tu te dis, ouais, mais en fait, ça fonctionne aussi avec si c'était Trump, en fait. Ça, Ultimate, tel qu'il est écrit dans cette série, ça fonctionne parfaitement si tu remplaces Bush par Trump. C'est, y a pas de, ça ne me choquerait pas. Et je ne pense pas que ça changerait fondamentalement quoi que ce soit.
Oui, mais c'est pas écrit avec Trump, tu vois.
Ouais.
Et je pense
faire un effort d'imagination, Steve.
Oui, il faut faire un effort d'imagination. Mais voilà, tu me demandes un effort. non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu me demandes de faire un effort. à la lecture d'un comic blockbuster, où on te dit ne réfléchis pas. C'est que de l'action, ne réfléchis pas.
En même temps, ben non, c'est justement ce que je te dis, c'est pas que de l'action dans Ultimate. Et... il y a un vrai propos politique, il y a un vrai propos de fond, avec entremaillé effectivement de gigantesques scènes d'action façon blockbuster. Parce et que, je... soyons honnêtes, la fin du second arc avec les Chitauri, c'est un bon gros blockbuster hollywoodien à fond les ballons, absolument manichéen dans tout ce qui est possible d'être manichéen. C'est voilà, ils se sont bien amusés avec ça.
Mais honnêtement, moi je suis pas allé jusqu'à la fin du deuxième arc. Hein. Bien des années après, j'avais arrêté avant. Je vais te prendre deux trois réactions que j'ai vu passer sur le chat qui représentent bien ce que moi j'ai ressenti à la lecture. Elijou nous disait les Ultimates de Millar, je me suis senti insulté. À partir de là, je peux pas accrocher. Et il nous disait bon ok c'est aussi Millar et Hitch, mais voilà, Millar est un sac à merde qui peut avoir ponctuellement du talent, mais un sac à merde quand même. Je vais te prendre la réaction de Grey aussi qui nous disait j'ai détesté les Ultimates dès la première lecture, un des premiers trucs que j'ai lu lors de mon retour aux comics, et comme Joe je me suis senti insulté. Il y avait Tommy justement qui nous disait lui le contraire, j'ai aimé l'Ultimate à la première lecture mais il faudrait que je le relise, et nous citer le fameux tu crois que ce A veut dire France.
Oui,
effectivement,
oui,
bon, ouais. Je suis désolé, moi je me suis senti insulté, et à partir de là j'ai pas d'affect. J'avais déjà du mal avec ces personnages beaucoup plus ambivalents, j'aimais bien le fait qu'on les change, c'était ce que j'attendais de l'univers Ultimate. De toute façon, je voulais qu'on me les change. Maintenant j'ai pas envie de suivre des sacs à merde en tant que personnage. Des personnages qui ont des défauts moraux, je veux bien. Mais à la base, des gens qui ont des défauts moraux, j'en vois déjà dans les séries, j'en vois déjà partout, j'en vois dans le monde réel. On est dans le comics, j'aime bien aussi pouvoir rêver un petit peu, et que mes héros soient des héros. Qu'ils aient des défauts, c'est logique, sinon il n'y a rien à raconter. Mais là, je voyais beaucoup plus de défauts que je ne voyais de qualités. Et ça me dérangeait, en fait. Ça me dérangeait. Je sais que c'est précurseur de plein de choses, et ça a été un immense apport au comics, évidemment. Même une série comme The Boys, je pense, ne verrait pas le jour sans l'apport d'Ultimates.
Ouais.
Mais ça me gêne.
New Avengers de Bendis n'aurait pas existé sans les Ultimates. Parce que justement, ça, comme tu disais, c'est l'entrée dans le troisième millénaire pour le concept, et je pense que c'est ce que je pensais à l'époque. C'est très difficile d'avoir d'un côté les Ultimates extrêmement modernes de Millar et Hitch d'un côté, et de l'autre tu regardes l'univers principal et tu te dis ouais mais c'est ringard en fait. Ces Avengers là, qu'est-ce que c'est que ces persos en fait?
Ouais mais tu vois, moi glorifier les travers des personnages me gêne. Ça reste des héros, il faut garder ce côté. Enfin, pour moi, c'est peut-être très con, c'est peut-être encore très gamin, mais j'ai quand même besoin d'avoir envie de suivre les personnages et pas de les avoir envie de les voir se prendre des branlées constamment, parce que c'est ce qu'ils méritent, parce que ce sont des connards. Et je
c'est
pense que
Ultimate
va un peu trop loin dans le côté les personnages ont des défauts de moralité. Comme je te dis, c'est pas un problème que les personnages aient des défauts de moralité. Il en faut tous. Je vais prendre un exemple très récent. Daredevil, écrit par Chizarsky. J'adore la série, mais Daredevil à l'intérieur a plein de défauts. Le mec couche avec une femme mariée en se disant toujours aussi accro à la religion. Il a involontairement certes tué quelqu'un mais ne souhaite pas le reconnaître, se cache derrière de l'alcool et des médicaments, enfin il y a plein de choses comme ça. Le mec a des défauts, mais il a assez de qualités pour que ces défauts, on arrive à les minimiser. Le problème de Ultimate pour moi, c'est que les qualités qu'il peut y avoir chez chacun de ces personnages sont trop faibles par rapport aux défauts qu'on te met en avant. Et Millar met vraiment extrêmement en avant tous ces défauts. Et c'est à partir de là que j'ai du mal, en fait.
Non, mais je comprends.
Encore une fois, ça reste quand même une lecture majeure, même si je n'aime pas vraiment, tu vois. C'est quelque chose que j'ai relu par la suite, pour me refaire une idée avec quelques années de plus. Non, je n'aime pas. Mais je suis content de les avoir lus. Et je suis content malgré tout, de l'apport que ça a amené. Effectivement. La façon dont on fait des scènes d'action, etc., comme tu disais tout à l'heure, oui, il y a énormément d'inspiration de ça.
Personnellement, ça reste une de mes lectures préférées de l'époque. Je l'ai relu aujourd'hui en me disant, je vais juste me refaire quelques épisodes. Résultat, j'ai fait toute la première saison, qui est les 13 premiers épisodes d'un coup. Voilà, sans m'arrêter, parce que c'était incroyablement fluide, incroyablement prenant. Les personnages sont effectivement loin d'être parfaits, mais je ressens quand même un attachement pour eux, justement, même parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il y a quand même une aspiration à ça. Ils sont plus teintés de réalisme, je pense, et c'est ce qui joue dans le tout. Ça sera malheureusement le point, on va dire, qui ne fonctionne pas en fait sur les X-Men, mais qui fonctionne sur les Ultimates. Voilà. Parce que les X-Men, écrits par Millar, sont aussi des sales cons.
Oui, mais ils ont plus.
Mais sans affect.
Ils ont plus de qualités que de défauts, pour moi. Tu vois, et c'est pour ça que j'accroche plus au personnage. Je vois par exemple Eddie Jo qui nous disait les Ultimates n'auraient pas existé sans Authority. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, clairement, enfin l'apport d'Authority, on l'a déjà dit plus d'une fois, l'apport d'Authority est majeur.
Oui, c'est une série pivot véritablement de la fin des années 90, début 2000. Parce que c'est le coup de pied au cul en fait que le genre super-héroïque avait besoin à l'époque. Parce que c'est ça en fait, hein, Authority, c'est qu'est-ce que feraient les super-héros s'ils existaient vraiment, avec cette sauce blockbusterienne ou hollywoodienne qui manquait. Voilà.
Le problème est que Authority a été un truc majeur, mais Authority n'a pas forcément beaucoup marché.
La première année non, c'est devenu culte en fait au fil du temps. Ça a vraiment explosé avec Millar, de manière assez... parce que je pense qu'en fait, les gens sont arrivés sur la fin du run de Ellis et Hitch. C'est à partir de là que véritablement le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner, et quand tu regardes les ventes, à partir de Millar Quietly, justement, ça a explosé.
C'est ça, le succès d'Ultimate, ça a été beaucoup plus visible et beaucoup plus impactant que le succès d'Authority. Donc même si Authority a apporté des choses énormes, Authority n'a pas été un énorme succès commercial. Pas autant que Ultimate.
Non, pas vraiment. Parce que
et c'est pour ça que les gens pensent toujours à l'apport de ce qu'a fait Ultimate. Oui, parce que commercialement, ça a été beaucoup plus visible. Même si Authority l'avait fait avant. On parlait tout à l'heure aussi de la série qui est arrivée après. Ultimate FF, alors... Enfin, Ultimate Fantastic Four, pardon. Pas Ultimate FF. Pas confondre les deux, parce que c'est deux séries différentes. Ultimate Fantastic Four, c'est une série que j'ai lue bien plus tard. Bien plus tard... que j'ai rattrapé en fait, désolé, que j'ai rattrapé en TP à l'époque où j'étais au Pays de Galles, et bah étonnamment j'ai bien accroché à cette série.
Ça va être notre grosse différence encore une fois. C'est une série, alors personnellement, dont j'ai aimé les débuts, dont j'ai aimé la réinterprétation du concept des quatre fantastiques, parce que je pense qu'il y a effectivement un côté un peu daté dans les origines des FF. Que Millar et Bendis, parce qu'ils co-écrivaient la série, ont assez bien réussi à éviter, avec ce côté pépinière de talent, think tank, qui est très intéressant, qui permet de regrouper tous les personnages un peu avancés, avec en plus cette nouvelle technologie qui est mise au point. Il y a pas mal de bonnes idées, sauf que c'est une série qui pour moi s'effondre au bout de quelques épisodes.
Voilà. Ah, mais
dès que Millar s'en va et que Bendis en fait récupère le truc. Alors qu'il est déjà surchargé de travail, tu sens que t'as la baisse en fait sur le premier arc.
Il y a quand même Warren Ellis hein, qui reprend la série dès le deuxième.
Je sais, à partir du 7, il fait 12 épisodes. Premier arc sans intérêt avec Doom, voilà, qui est l'une des pires réinterprétations de Doom que j'ai pu voir. D'ailleurs, tellement mal accueillie qu'elle a été abandonnée quasiment immédiatement. Le deuxième arc est un peu mieux. Pour une raison simple, alors déjà il y a Adam Kubert qui se fait plaisir sur le niveau des dessins, et parce que en fait Warren Ellis nous fait une aventure ultra SF qui est poussée au bout du bout où il se fait plaisir. Voilà, c'est du fun, de la SF comme on l'aime classique, et du coup ça fonctionne mieux.
Moi, j'avais été à peu près jusqu'à l'épisode 25, enfin juste avant l'introduction de Namor en fait. Donc j'avais vu l'introduction à Marvel Zombies, tout ça, puis après j'avais arrêté. Mais ce que j'en avais lu m'avait assez séduit pour le lire. En même temps, j'étais au Pays de Galles, faut penser que j'avais un peu rien à foutre. Alors peut-être que dans un autre contexte, j'aurais pas accroché, mais j'ai trouvé que c'était vachement plus lisible que d'autres séries. J'ai trouvé la réinterprétation assez intéressante parce qu'elle changeait des choses quand même. C'est ce que j'avais apprécié.
Il fonctionne le mieux pour moi, c'est le personnage de Susan Storm dans cette réinterprétation. Elle est beaucoup plus intéressante dans cette série-là que dans l'univers principal. Et je pense aussi que c'est dû au fait que dans l'univers principal, les scénaristes ont toujours du mal à savoir quoi faire en fait avec elle. Ce qui est dommage.
Faudrait sans doute remettre à jour le concept.
C'est surtout pour ça.
Tommy qui disait Docteur Fatalis avec des pattes de chèvre.
C'est ça, oui. En fait, il en fait le démon, mais ça fonctionne pas.
Ouais, mais bon, c'est relié avec toutes les origines magiques du personnage.
Et Millar, en fait, c'est pour ça que dès que Millar revient en fait sur la série, il ramène le personnage à la version Kirbyenne classique. Voilà, parce que c'est la version qui fonctionne.
Il disait, n'oublions pas aussi que Ultimate FF, l'apparence du Docteur Fatalis, et qui s'appelait Victor Van Damme.
Toi, tu es arrêté jusqu'au 25.
À peu près, ouais.
Jusqu'au début du run de Mike Carey, j'ai arrêté là.
Ah oui, non, mais.
C'était vraiment le moment où les séries Ultimate, personnellement, commençaient à baisser. Je crois qu'on devait être vers 2005-2006, où l'univers central m'intéressait beaucoup plus. C'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique. Où la série Ultimate avait été reprise par Jeff Loeb. Donc je ne pense pas avoir besoin d'aller beaucoup plus loin sur ce que je pense du cas Loeb. Voilà, du cas Loeb sur l'univers Ultimate. Voilà, ça signe le début de la mort de cet univers. Et il n'y avait plus qu'Ultimate Spider-Man qui fonctionnait. Ultimate X-Men, moi, comme je te dis, la première année est bien, puis ça baisse en fait de manière constante par la suite. Aucun auteur, véritablement, n'arrive à saisir ce qui fait fonctionner l'univers X-Men. Et en plus, ça arrive à une période où, même dans l'univers principal, ils ne savent pas quoi faire avec les X-Men. Et personnellement, je pense que ça fait 25 ans qu'ils ne savent pas quoi faire avec les X-Men. C'est le principal problème. Et c'est pour ça que on en revient à l'univers principal et à Hickman. Je pense que c'est pour ça que ça prend aussi bien. Parce que pour la première fois depuis des décennies, on a un auteur qui, à l'instar de Morrison, qui à l'instar de Whedon, sait écrire cet univers. Voilà. C'est l'univers, l'écrire de manière intéressante, a des histoires à raconter, des nouvelles histoires, et pas simplement, ah ben Claremont c'était bien, donc je vais répéter Claremont. Vous savez quoi? J'adore Claremont. Je l'adore, c'est mon run préféré sur les X-Men, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous savez ce que faisait Claremont? Ben, il se répétait pas. Voilà, c'était une saga qui avançait avec des nouvelles histoires en permanence. C'est quelque chose que Marvel a perdu pendant très 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 longtemps.
Pascal qui nous dit, Loeb, faut voir quand il écrit, si c'est avant ou après la mort de son fils. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé dans sa façon de...
C'était après. Parce que son fils est mort en 2003-2004, quand il finissait son run sur Superman et Batman. Et tu vois que la dernière année, c'est, il a pas la tête à ça. Et ce qui est normal.
Bien sûr, hein. Il y en a beaucoup qui auraient même carrément arrêté de bosser, hein.
Voilà. Lui, il a continué. Enfin, il a fait une pause après. Mais c'est clair que ça n'a jamais été le même en fait ensuite.
Parlons d'un titre qu'on a oublié, qui était un titre assez vite lancé finalement, puisqu'on a parlé des grosses séries, donc c'est-à-dire Spider-Man, X-Men, Fantastic Four et Avengers, même si ça s'appelle Ultimate, hein, c'est Avengers. Il y a un titre dont on n'a pas parlé qui a été lancé assez rapidement, c'est le Marvel Team-Up.
Mm-hmm. Écrit par Bendis avec un cast rotatif d'artistes, souvent issus de l'indé. Si vous vous intéressez à l'univers Ultimate, c'est pas la peine de commencer par là, puisqu'en fait la plupart des épisodes ont été décanonisés relativement rapidement, qui avait pour mission à la base justement d'introduire tous les personnages un peu secondaires dans cet univers, la manière dont c'était réinterprété, et comme en fait dans les autres séries, au fur et à mesure que l'univers Ultimate avançait, on les a réinterprétés de manière différente, la série Ultimate Marvel Team Up, on a dit oubliez ça, c'est pas la peine.
C'est bien le problème parce que justement c'était assez malin d'utiliser Spider-Man qui était le premier personnage de l'univers Ultimate finalement pour introduire plein de choses en version différente, en version Ultimate justement.
C'est ça.
Mmh. Bon, cette série n'aura pas été très longue, hein, elle a duré que 16 épisodes de 2001 à 2002 et puis ça s'en est allé. Et après, alors c'est vrai qu'on a eu aussi, on a eu pas mal de petites mini-séries. C'est là que ça a commencé pour moi en fait, à l'univers Ultimate à partir un peu en cacahuète. puisqu'on a commencé à voir des la mini-série Ultimate Daredevil and Elektra. On a eu les mini-séries Ultimate Adventures, Ultimate War, Ultimate Six. En fait, à partir de là, moi, j'ai commencé déjà à... Alors, hormis Ultimate Fantastic Four que j'ai rattrapé plus tard, mais ça a commencé déjà à perdre de son sens.
Bah, ça a commencé à perdre son sens à partir du moment où Millar est parti, son premier départ, parce qu'on peut oublier son second, son retour par la suite, parce que ça, ce qu'il a fait n'avait aucun intérêt. Ça a perdu sa fraîcheur, à part Ultimate Spider-Man, qui est resté une constante en matière de qualité, bien que je pense que la série a commencé véritablement à perdre à partir du moment où Mark Bagley est parti.
Remplacé par Stuart Timonen.
Voilà. Qui est bon, hein. Mais ça casse quelque chose dans la série. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je sais que je me suis emmerdé pendant un moment avant que Bendis ne retrouve justement ses repères sur la série. Et en fait, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de tuer Peter. Pour ça, il a dû ramener Mark Bagley.
Mais ça reste une des constantes de la et un des gros avantages de cette série Ultimate Spider-Man, c'est qu'elle n'a eu que deux dessinateurs sur la première grosse partie. Là où même des séries comme Ultimate X-Men, qui ont été jusqu'au numéro 100, ont eu une bonne douzaine de dessinateurs différents.
Ouais. Et tu vois, en fait, même le déclin de l'univers Ultimate en tant que tel au travers des dessinateurs qui sont invités sur la série. Parce que, au départ, tu as du Andy Kubert, du Adam Kubert, tu as du Chris Bacalo, tu as du David Finch, à un moment. Et passé l'épisode 50. Bah, ça reste un, que tu aimes ou que tu aimes pas, ça reste l'un des dessinateurs les plus populaires de l'industrie. C'est pas moi qui, pas, voilà. Moi, j'aime beaucoup David Finch, je le vois pas sur toutes les séries, mais en général, il est très bon. Et il est apprécié. Mais passé l'épisode 50, ouais. Stuart Timonen signe quelques épisodes ici ou là.
Effectivement, il signe une dizaine d'épisodes. On a du Steve Dillon pour un épisode. On a du Ben Oliver.
C'est plus les dessinateurs de premier plan de Marvel. Très clairement, ils les réservent pour l'univers principal.
Ben Oliver, Salvador La Roca, Yannick Paquette, Pascal Alix.
Ça fait mal, je veux dire.
Harvey Tolibao qui signe un épisode et puis on finira par Mark Brooks sur la fin de la série.
Ouais, moi j'ai arrêté avec Ben Oliver. C'était au moment où il commençait. Ben Oliver qui est très très bon pour les couvertures, mais qui en termes de page intérieure, c'était relativement rigide et sans beaucoup d'attrait. Et tu vois que c'est là que autant le départ des 3-4 premières années jusqu'à 2005. 2005 c'est vraiment le tournant, je pense. Ça restait un pôle important pour Marvel. Passer cette période-là, le principal intérêt pour l'éditeur, pour Joe Quesada, pour tous les auteurs et pour les lecteurs, ça sera l'univers principal. Parce que c'est là que les choses se passent. Parce que, de nouveau, en fait, il se passe des choses. Et ce qui est, on en revient à ce qui faisait l'univers Ultimate au départ, c'est qu'il pouvait se passer des choses dans cet univers qui ne pouvaient pas se passer dans l'univers principal. Et en fait, à partir de 2004-2005, je pense qu'il y a, il y a des choses, en fait, qui sont tombées dans l'univers principal. On a raconté les origines de Wolverine. On a eu la mythologie de Spider-Man qui a été réinterprétée. On a eu, à partir de 2003, les New Avengers de Bendis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'univers principal, qui fait qu'on se disait, ouais, mais en fait, l'univers Ultimate est dépassé maintenant. Tous les tabous sont quasiment tous tombés.
Le problème de l'univers Ultimate, ce qu'il voulait faire au départ, c'est-à-dire faire une continuité allégée, reprise à zéro, etc., bah, ça a été sa perte. Parce que, à force d'introduire des nouvelles choses, peu à peu, on a rendu l'univers Ultimate aussi compliqué que l'univers régulier.
D'où Ultimatum.
Et c'est pour ça, voilà, qu'on arrive à Ultimatum en 2009 pour faire péter l'univers et le redémarrer. Et on en verra, après, la saga Ultimate Comics. Qui va devenir tellement compliqué qu'on fera un Ultimate Comics Reborn.
Ouais.
Et puis un Ultimate Marvel Now pour terminer avant que la gamme se termine définitivement en fin 2015, début 2016. Et c'est le problème. Et justement, je pense qu'on approche un peu de la fin parce qu'on voulait traiter surtout des débuts, même si oui. On ne peut pas parler de l'univers Ultimate.
Non, c'est bien, on a évolué naturellement vers la fin en fait.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'univers Ultimate finalement? On a brièvement parlé de Miles Morales tout à l'heure. On va peut-être pouvoir développer un peu plus là-dessus, mais au sortir de Secret Wars, quoi.
On gardera en fait l'influence qu'a eu l'univers Ultimate à ses débuts. Je pense que ça a été un coup de pied au cul que nombre de gens attendaient au niveau de l'univers Marvel. De dire, voilà, il se passe, les joueurs rappellent que c'est dans l'univers Ultimate, effectivement, qu'on a le Maker, qui a été effectivement entièrement réinterprété par Hickman, puisque au départ, le fait que Reed Richards devienne mauvais, en fait, c'est une idée de Bendis, et c'est Hickman qui en a fait le Maker. Et qui, effectivement, est passé dans l'univers principal. Cette influence, en fait, elle a permis de rebooster Marvel en disant, mais on peut encore faire des choses avec l'univers Marvel, on peut encore faire des choses nouvelles avec ces personnages, faut juste en avoir envie. Et à partir du moment où l'univers Marvel principal a rattrapé, justement, a commencé à être secoué, a commencé à faire tomber ses tabous, comme je le disais, beaucoup de lecteurs, dont moi, on s'est demandé, ouais, mais grosso modo, qu'est-ce qu'apporte de neuf l'univers Ultimate par rapport à ça? Pas plus grand chose. Il a fait son job. Il restait l'univers Ultimate Spider-Man. Il restait même quand elle a commencé à décliner après le départ de Mark Bagley, une relativement bonne série. Mais on ne soutient pas un univers avec une seule série.
Non mais c'est ça, hein, c'est Maker, c'est Miles Morales, et c'est tout ce qui reste. Et on est quoi, 5 ans plus tard, et l'univers Ultimate, il a grosso modo disparu des mémoires. Il y a même des gens, faut quand même y penser, il y a des gens qui voient Miles Morales et qui n'ont pas conscience que c'est un personnage qui vient de l'univers Ultimate.
Et heureusement, parce que sinon, ça rajoutera un degré de complexité qu'il n'y a pas besoin de temps.
Et aujourd'hui, l'univers Ultimate a disparu.
Oh, pour ça moi, finira par revenir, puisque non. Marvel aime bien ressusciter les trucs de manière régulière, mais
je
d'ailleurs,
pense pas.
Ça reste sur une note ambiguë, la fin de Secret Wars, parce que grosso modo, ce que fait Bendis avant de partir, c'est de dire, oui, mais en fait, l'univers est là, et on a effacé les derniers événements. Voilà, donc, ouais. Dans Ultimate 1 de mémoire.
Ultimate End d'ailleurs qui a, excusez-moi, le bon goût d'être écrit par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Alors, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouve ça bien qu'on ait...
J'ai vu le premier épisode, c'était de la chiasse.
Peut-être, mais en tout cas, je trouve ça bien qu'on ait mis pour le dernier truc, la dernière pierre angulaire à cet univers, on a remis ceux qui l'ont lancé.
Ouais.
Peut-être que c'est moins bien, mais je trouve le symbole fort. Tu vois, et j'apprécie le symbole, même si c'est pas bon. Et encore une fois, je vais pas me prononcer parce
oui,
que je ne l'ai pas lu.
Ah oui, je rappelle que le marteau de Thor Ultimate existe encore, oui, c'est vrai. Ça a été ramené dans la série Thor. Enfin, pas longtemps, mais ça a été ramené.
Pour moi, l'univers Ultimate a servi son propos. Il a même été beaucoup trop long. Je pense que au moment d'Ultimatum, il aurait dû disparaître. Je pense que c'est un univers qui, dès le départ, était voué à disparaître de toute façon à partir du moment où on a commencé à ajouter des personnages et qu'on a ajouté des séries et qu'on en a fait un univers à part entière. Pour moi, il ne peut pas coexister l'univers Marvel et l'univers DC. Pardon, excusez-moi. Non, je suis désolé, c'est que je pensais déjà à ma prochaine idée et c'est ce qui m'a fait faire un lapsus. Excusez-moi. Il ne peut pas coexister l'univers Marvel et l'univers Ultimate en même temps. Pas trop longtemps, en tout cas. De même, que DC a bien compris qu'il ne peut pas coexister finalement son univers principal et ce qu'ils ont tenté d'avoir un comme univers Ultimate un peu plus tard avec Earth 2 à l'époque des New 52. Ça ne peut pas coexister pendant des années. Ça peut servir au départ, ça peut aider des nouveaux. Non, je parlais de alors Earth 1 c'est différent, il y a pas une sortie régulière. Je parlais vraiment de la, tu sais, Earth 2 à l'époque des New 52 avec la Justice Society of America et
Oula.
Et DC a bien compris que ça ne marchait pas en fait au bout d'un moment. C'est bien ce côté je modernise et c'est pour ça que la Gamers 1 est bien plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de grosse régularité finalement. Est-ce que à partir du moment
c'est aussi
où...
son défaut pour moi. Il faudrait qu'elle soit plus régulière.
C'est aussi son défaut, mais finalement, à partir du moment où tu crées une nouvelle gamme, où tu dis aux gens, ça, c'est des origines modernisées pour ceux qui connaissent pas, et puis c'est une façon de réinterpréter les personnages. D'accord, tu les réinterprètes. Mais si tu en fais un deuxième univers à part, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Si tu en fais un deuxième univers à part, régulier. J'entends bien régulier, hein. Tu demandes à tes lecteurs de choisir l'un ou l'autre. Mmh. Et finalement, tu divises ta base de lecteurs. Le but étant d'amener des nouveaux lecteurs, des gens qui seraient un peu effrayés de la continuité, à ça, je pense que Earthsworn marche mieux. Pourquoi ? Parce que c'est un bouquin que tu prends. Il y en a un qui sort tous les ans. Et voilà.
Je pense qu'il y a aussi une question de gestion des talents. Parce que bah, quand tu découvres une nouvelle, voilà, un nouvel auteur, un nouveau dessinateur, c'est à un moment c'était devenu, mais pourquoi vous le mettez pas sur l'univers principal en fait ? Quel intérêt de le mettre sur l'univers Ultimate ? S'il est si bon que ça, mettez-le sur l'univers principal. Qu'est-ce que ça aurait donné si au lieu de maintenir Warren Mackie sur Amazing Spider-Man, on avait mis directement Bendis ?
Bah, Pascal résume très
bien. On aurait pu avoir JMS en face aussi, parce qu'on peut avoir deux auteurs différents sur la franchise Spider-Man. Ça aurait pu fonctionner.
Pascal résume très bien le truc. Il nous dit, alors je reprends son message. Ce loi contredisait tout le but d'Ultimate, faire un univers neuf, et après tu te retrouves avec un univers vieux de 15 ans, donc une continuité.
Mmh. Bah, de toute façon, moi, je me souviens d'une interview que Bendis avait donnée. De toute façon, il avait dit que la continuité, on n'échappe pas, elle apparaît dès la case 2, en fait.
Ouais, mais il y a continuité et continuité, en fait. Continuité sur un arc et continuité sur 10 ans d'histoire, c'est pas la même chose.
Ouais.
Tiens, tu vois, en parlant de... Ça me fait penser à un truc, je voulais en parler tout à l'heure, et on est passé sur autre chose, et du coup, ça m'est sorti de la tête. Un des défauts que j'ai avec Ultimate X-Men, parce que je disais que j'avais préféré, mais un des gros défauts avec Ultimate X-Men, et ça m'a refrappé là, en le relisant, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas relu, en fait... je crois qu'en fait j'avais pas relu depuis le moment où je m'étais refait un peu Ultimate Fantastic Four là quand j'étais au Pays de Galles, où j'avais essayé de relire un petit peu ce qui avait été fait dans l'univers Ultimate pour avoir une vague vision de ce qu'il y avait. Un des gros défauts, c'est que c'est un défaut et c'est à la fois une qualité, c'est qu'on te présente que moyennement les personnages et on estime que tu les connais.
Ouais, là où ce que tu disais tout à l'heure.
Là, excuse-moi. Alors,
ce que je disais quand je disais que les personnages étaient très vaguement définis en fait. C'était ma pensée.
D'accord. Excuse-moi, je l'avais pas compris comme ça. Je suis désolé. Pardon.
En termes de caractérisation, t'en apprends très peu sur eux et ils sont. Ils sont plus définis par leur pouvoir qu'autre chose.
Ils sont définis par leur nom et par le fait que tu les connais parce que tu les as forcément vus dans des films, parce que tout le monde avait vu les films X-Men à l'époque. Et autant Spider-Man, il prend le temps de bien te reposer le personnage, ce qui n'était peut-être pas nécessaire. Hein. Je sais pas, je dis pas que ça l'est ou que ça ne l'est pas. Je pose la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de redéfinir à ce point pour en faire la même chose ? Et Ultimate X-Men, là où il va tout changer, bah te dit, voilà les personnages, grosso modo vous les connaissez tous, et ben je vais les changer. Et des fois, si t'as aucune base X-Men, je pense que le début d'Ultimate X-Men peut être un peu rude. Je voulais le préciser tout à l'heure, puis on a parlé d'autre chose, et j'avais pas compris que c'est ce que tu sous-entendais. Excuse-moi, Sam.
Oh, pas de soucis, d'accord.
Voilà un petit peu pour l'univers Ultimate. Et donc, bah, comme je disais, moi, c'est pas un univers que je porte beaucoup, beaucoup dans mon cœur. Ça a quand même apporté du monde aux comics, donc ça reste, ça a servi son propos, évidemment. C'est pas forcément l'univers que je préfère, tout simplement parce que, bah, encore une fois, moi, mon intérêt, il est pour l'univers Marvel.
Personnellement, je conserve une très grande affection. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de relire ces épisodes. 20 ans plus tard, je suis ravi de voir qu'ils fonctionnent toujours aussi bien. Et voilà, c'est quelque chose qui restera dans ma vie de lecteur un moment important.
J'en ai lu beaucoup plus hein, des Ultimate Spider-Man, parce que comme je te disais, moi je te dis, j'ai arrêté à la fin du premier arc, à l'époque où ça sortait en VF, quand je les achetais. C'est là que j'avais décidé d'arrêter la série, parce que pour moi, elle ne m'intéressait pas. J'en ai lu bien d'autres après, j'ai dû aller jusqu'au 40 ou 50, quelque chose comme ça, à peu près. Le reste est très sympathique, hein. C'est pas un problème que c'est pas bien, ou truc comme ça, c'est juste que je ne comprenais pas l'intérêt à l'époque. C'est pour ça que je disais que j'avais arrêté à ce moment-là. Mais dans l'ensemble, ça reste quelque chose de tout à fait lisible, et c'est même très facile à lire et très agréable. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Veux-tu rajouter peut-être quelque chose, Sam, concernant l'univers Ultimate ?
Non, je pense qu'on a tout dit à peu près. C'est voilà, c'était une Alors, bonne expérimentation, de bons comics pendant un bon moment, et c'est mort malheureusement de manière relativement pitoyable.
Je vais te poser la question qui n'était pas prévue, parce que j'aime bien faire ça. Sam, tu es éditeur, pas éditeur en chef, faut pas pousser. On se calme. Tu es juste éditeur. On te dit. Ton but, c'est relancer la gamme Ultimate, là, demain. Comment tu le fais? Et avec quel auteur? Ah, la question chiante, hein. Ah, j'aime bien.
Bonne question. En tant qu'auteur, je pense que pour Spider-Man, je mets Donny Cates dessus.
Ouais.
Pour les Avengers...
Donc tu gardes en fait la gamme telle quelle, c'est-à-dire avec du Spider-Man, du Avengers, tu ne sors pas des clous.
Non, je me réappuie sur les franchises les plus célèbres.
Ok. Non mais c'est intéressant comme choix justement. C'est.
Je passe les origines, c'est-à-dire je ne réétablis pas les origines parce que je pense qu'à maintenant on a eu les films, on a eu les trucs, c'est plus la peine. Je le fais dans les premiers mois quand même. Et j'essaie de trouver des nouveaux talents surtout. Voilà. Même si Donny Cates commence un peu à dater maintenant, mais je pense qu'il a quelque chose à dire sur Spider-Man et ça pourrait fonctionner. Sur Avengers, je sais pas trop qui je mettrais en fait.
Eh ben écoute, le temps que tu cherches, Pascal nous dit tu relances la gamme avec Bendis, comme ça on est tranquille, on n'ira pas voir et il salopera pas l'univers d'essai. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais je t'avoue que.
Il faudrait vraiment des auteurs, en fait, comme Bendis et Millar à l'époque, qui ont véritablement une idée sur comment remoderniser le concept. Parce que je pense que on en parle sur les Avengers depuis un moment, la traînée que ça a laissé pendant 10 ans a permis de relancer la franchise. Bendis l'a réussi, Hickman l'a réussi. Et depuis Secret Wars, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec les Avengers. Voilà. On a poussé le concept aussi loin qu'il était possible. On a vu Wade essayer d'aller dans une autre direction sans que ça fonctionne. On voit Aaron essayer de faire autre chose, mais personnellement, ça m'a ennuyé, donc j'ai arrêté. Et mine de rien, ça fait 5 ans que je trouve qu'on n'a pas lu une vraie bonne histoire des Avengers. Ça commence à faire. Ce qui est étrange pour une franchise qui a été au centre de la stratégie Marvel pendant quasiment 15 ans.
Moi, je t'avoue que, comme je le disais tout à l'heure sur un Spider-Man, c'est-à-dire que je vais repartir avec le personnage des origines, évidemment, mais je ferai, ce que je te disais, c'est-à-dire que je changerai, je garderai l'oncle Ben justement pour explorer une autre direction. Quitte à repartir sur autre chose, partons vraiment sur autre chose. Peut-être que cette fois-ci, ce sera Trent May qui y passera. Peut-être que ce sera Mary Jane. Peut-être que ce sera. Mais je garde l'oncle Ben et j'en fais un véritable allié. De Peter, c'est-à-dire la personne à qui il ira se confier, à qui il partagera son secret, c'est-à-dire que je change profondément le truc, quitte à tester quelque chose de nouveau, je préfère aller jusqu'au bout et vraiment tenter quelque chose de nouveau, tout en gardant les bases communes du personnage, sinon il n'y aurait pas de sens. Pourquoi il s'appellerait Spider-Man à ce moment-là? Autant créer un nouveau personnage, mais j'explorerai une nouvelle façon. Peut-être que ça marcherait pas, peut-être que ça s'arrêterait au bout d'un an et au bout de 12 épisodes, mais je l'explorerai comme ça, tu vois.
En fait, je viens de mettre le doigt sur pourquoi j'ai autant de mal à définir des auteurs et un concept pour le relancer. Je pense qu'en fait, le moment est passé. Parce qu'en fait, la formule Ultimate est aujourd'hui la norme dans la gestion des grandes franchises super-héroïques. C'est-à-dire que pour chaque run, dès qu'on passe son run sur 20, on appuie sur le bouton Reset et on repart à zéro. Et c'est ça la marque de fabrique de l'univers Ultimate. Donc en fait aujourd'hui je ne pense pas que ça fonctionnerait.
Ah, je ne pense pas non plus que ça fonctionnerait. C'était juste une question comme ça, tu vois.
En permanence, tous les 2 ans, on repart aux bases.
Et ben.
Donc tu as le bouton retour à zéro en permanence qui est on va exploser le bouton à force. Et du coup je ne vois pas comment en fait une nouvelle ligne ultimate pourrait véritablement s'imposer. Parce que ce retour aux bases on le fait en permanence.
Et pour moi tu vois la ligne ultimate pourquoi elle n'a plus sa place? Parce que cinéma. Parce que finalement, le cinéma, c'est l'univers Ultimate d'aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est pour ça que pour moi, en comics, ça n'a plus sa place. Surtout que le Cinematic Universe a sa ligne de comics. Donc finalement, l'univers Ultimate ne sert à rien en tant que tel. Moi, c'était vraiment la question, si on te disait, bah, tu dois le relancer, voilà. Comment tu aborderais la chose? Je prendrais les personnages de base et j'explorerais le concept un petit peu différemment. Qu'on garde la base de commune du personnage pour que, bah, encore une fois, qu'on comprenne pourquoi c'est tel personnage, mais je changerais des choses. Une sorte de méga what if, tu vois. Quitte à recommencer à zéro. Mmh. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas. C'était bien cool de se replonger là-dedans. De voir un petit peu ce qu'il y avait il y a 20 ans finalement et cette gamme qui a qui redéfinit pas mal de choses au final
que qui aura permis à l'univers Marvel de se relancer justement au début des années 2000, qui aura contribué à ce retour de Marvel sur le devant de la scène, qui aura permis de pas mal faire bouger les séries principales mine de rien par écho en fait, en se disant, mais pourquoi on ne fait pas ça sur l'univers principal? Pourquoi on ne fait pas bouger les choses? Et ça a sauvé Marvel, en fait, véritablement. Avec Marvel Knights, ça a été les deux lignes qui, à la fin des années 90, début des années 2000, ont permis de faire sortir Marvel du tronc.
C'est clair. Et bien voilà, donc c'était notre petit retour sur l'univers Ultimate. On va vous souhaiter, après cela, une très bonne soirée, un très bon week-end. Mmh. Profitez-en pour bien vous reposer. On va se donner rendez-vous, non pas lundi cette fois-ci, on fera pas de spécial lundi, on va prendre un peu de temps off, histoire de souffler un peu.
Ouais, je ne vous cache pas que la semaine prochaine, je la sens assez rude. C'est pour ça que, je préfère sauter l'émission de lundi parce que je me sens que je vais pas être trop en état.
On se retrouvera donc vendredi pour un prochain spécial comics, qui cette fois-ci sera consacré à roulement de tambour. Sam, je te laisse annoncer.
On va s'intéresser aux univers parallèles de l'univers DC cette fois-ci. Donc les grandes mini-séries, les one-shot spéciaux, les Elseworlds, ce genre de stock. Et voilà. En fait, on va parler surtout de nos, on va dire, réalités parallèles préférées.
Des choses que l'on aime, évidemment. Alors bien sûr, hein, c'est un sujet gigantesque. Donc clairement,
on va se focaliser sur certains.
Ne vous attendez pas à ce qu'on soit exhaustif. On ne parlera pas de tout parce que sinon il faudrait parler de tous les comics des années 60 où on explorait des pseudo-réalités parallèles à chaque épisode. Hein. Mm-hmm. Donc non, voilà. Enfin, on va pas parler de tout, mais on va aborder pas mal de réalités comme ça. On l'a fait chez Marvel et bien on le fait chez DC également. Ce sera donc vendredi à 19h, mardi, cependant, donc pas d'émission lundi, mais il y aura une émission mardi, il y aura un Rock City mardi. Je ne vous dis pas le thème, ce sera à vous de le découvrir lors de l'émission mardi, ou en tout cas au départ, ça sera très vite facile à trouver après. Donc rendez-vous mardi pour un Rock City, vendredi pour un spécial comics, et puis jeudi, on reviendra avec Laure pour vous parler un petit peu d'horreur sur un sujet différent. Voilà, pour toujours conserver cette case du jeudi habituelle pour nous. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite de passer un excellent week-end, portez-vous bien, et à très vite.
À bientôt.